Gameblogueuse, Gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Bah, ça va.
C'est génial.
Ouais.
Ah, franchement, quel bonheur. Ça va, Romain?
Salut, Primo.
Bon, ça roule,
100%
les mecs.
Spontanéité.
Exactement. Aujourd'hui, on a décidé d'être totalement spontané, rien que pour vous à l'écran, parce qu'en fait, on le réenregistre. Bon, on vous dit rien, voilà. Vous n'avez pas entendu. Alors, vous avez peut-être suivi l'actualité cette semaine.
Ou pas.
Ou pas.
Mais si c'est pas le cas,
il y a un peu de mouvement. Alors ça fait longtemps, hein, qu'il y en a du mouvement de ce côté-là, mais il y a un peu de mouvement du jeu vidéo. Non pas, il y a pas, non pas de du cinéma ou vers le jeu vidéo. Habituellement, on traite beaucoup de ces jeux adaptés de séries ou de films. Ben là, c'est le contraire. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de poussée du jeu vidéo vers les autres médias, vers la télévision et le cinéma. Il y a eu une annonce de Castlevania qui va arriver cette année en série. Première saison qui va arriver en 2017 sur Netflix quand même.
Tu dois être comme un petit fou, toi. Hein.
Ah ben moi, je suis... Là, je suis...
Chaud patate.
J'y crois à mort.
Ah, j'y crois à mort.
Ah non, non, je suis à fond. J'aime beaucoup le travail du producteur donc, qui l'a annoncé, Adi Shankar. Ne fais pas de vanne là-dessus. Hein. Parce que j'étais sûr que t'allais le dire.
Bah, Shankar a dit.
Voilà, j'étais sûr que t'allais la faire. Voilà, il fallait que tu la fasses. Donc, Adi Shankar qui avait fait notamment, qui avait produit Dread, qui est pour moi une des meilleures adaptations comics qui existe.
Ah, c'est vrai que c'était bien Dread.
Elle est...
Avec Stallone?
Non, non, pas du tout.
Ah, bah non, parce que celui avec Stallone est pourri.
Non, non, celui
ah
avec
bon
Stallone.
Ah,
là, là. C'est un. Voilà. C'est
ah, genre,
un remake qui est assez récent.
Peut-être que je mélange.
Le remake est assez récent.
Parce que Adi Shankar est jeune. Hein, c'est,
ouais,
ah oui, non, celui avec Stallone s'appelait Judge Dread.
Ouais.
Et le vrai bien, il s'appelle Dread.
Voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Mais Stallone, tu l'as dit, c'est une bonne gueule de Dread quand même.
Il a aussi produit un court métrage, même un autre court métrage avec les Power Rangers où il a complètement détruit le mythe des Power Rangers.
Attendez, juste stop, on arrête un instant.
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un mythe Power Rangers?
Ah oui, bien sûr, oui.
Non, mais la mythologie, quoi.
Ça a toujours été pourri et.
Mais
nullissime.
Non, arrête. Bah, si c'était pas un mythe aux États-Unis, ils en feraient pas encore un nouveau film qui va
mais
sortir
non,
bientôt.
Voilà.
Brian,
et bah, Julo, je vais dire, je pense que c'est générationnel. Parce que ouais, moi, Power Rangers, quand c'est sorti, j'avais moins de 10 ans et j'étais la cible. Et sur moi, ça fonctionnait très bien. Tout
donc,
comme
Julo,
Bioman fonctionnait
voilà,
très bien des années.
Ah non, 45 ans, tu ne vas pas commencer à juger les gens plus jeunes.
5 Kukai et XOR, d'accord.
Et Spectroman.
Spectroman.
Voilà.
Voilà.
C'est la
mais
même
alors,
chose.
Les Power Rangers, ça faisait tiep quand même.
C'est la même chose.
Bah, c'était pas ma cam non plus. Et surtout, un court-métrage The Punisher Dirty Laundry qui était absolument excellent. Bref, j'y crois à fond. Et en plus, c'est Warren Ellis qui est à l'écriture.
J'y
Kevin
crois,
Cole
bah...
à la production. Bref, j'y crois à fond. Mais il n'y a pas eu que ça hein, cette semaine. Il y a eu aussi les premières images du reboot cinématographique de Tomb Raider avec Alicia Vikander. On peut voir qu'elle a très chaud et qu'elle est très musclée et qu'elle va sûrement bien s'en sortir. D'ailleurs, ça va être. Je sais pas si vous avez vu hein, ces images, mais ça va être
bien
vraiment du reboot, même jeu vidéo.
En tout cas, donc, sur les premières images uniquement. Ça a l'air de plutôt bien coller.
Tu veux dire que ça ressemble au reboot,
ouais, au
de,
reboot
Square
de 2013,
Enix, ouais,
ouais, absolument. Et puis surtout, il y a Take Two.
Elle va passer tout le film à faire.
Bah comme Nathan Drake en fait. Oh non 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 non.
Ouais,
ça,
moi c'est ça que j'adore. Ouais, bah, j'espère que dans le film Uncharted, parce qu'il va y en avoir un, je crois.
Il est censé en avoir un.
Il y aura
absolument.
2-3. Non 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 non.
Et donc Take Two aussi a décidé de lâcher ses licences comme ça de. Donner son argent, enfin de récupérer de l'argent en fait, un
ouais,
peu comme Konami avec Castlevania.
Mais... Pas n'importe comment quand même.
Ouais, alors t'en sais plus toi d'ailleurs.
Bah en fait, c'est Strauss Zelnick, le PDG ouais, de Take-Two, qui a accordé une interview à MCV récemment, très mmh, récemment, et il expliquait qu'ils avaient déjà passé deux accords de licensing mmh, pour des films. En fait, ça veut dire que 2K, enfin Take-Two, vend les licences pour l'exploitation au cinéma et des adaptations de ces films-là. Donc, Take-Two ne produit pas lui-même, donc ne finance pas ces mmh, films-là. Il laisse juste là, il cède la marque. Et il expliquait que ils sont plutôt ouverts à cette idée. La seule condition, c'est qu'ils gardent un contrôle créatif, contrôle mmh, artistique sur ce qui est fait avec ces films. Mais sinon, ils sont pas fermés à l'idée de permettre à d'autres studios de faire des films basés sur leur licence. Après, il a dit qu'il y avait deux accords déjà mis en place.
Lesquels?
Pour quelle licence?
Mmh.
On ne sait pas.
Table Tennis et allez, XCOM The Bureau, ça serait parfait.
Bref, Table Tennis et Midnight Club.
Bah, XCOM The Bureau, ça va, non?
Non, The Bureau était nul.
Oui, mais ça pourrait faire une bonne atmosphère. Pour
oui, mais quand même, le jeu était nul.
D'accord.
Je crois pas qu'il soit bien vendu, si je puis me permettre. Mmh. Peut-être un Destroy All Humans. Non, c'est pas chez 2K, ça c'était chez
THQ.
Ouais, pardon. Mais ils ont pas récupéré. Bon, bref. On vous parle de ça parce que bon, on a décidé de vous faire un podcast aujourd'hui consacré à ces adaptations au cinéma et à la télé de jeux vidéo, justement. Et je vais commencer avec une question très simple, messieurs. Qu'est-ce qui fait une bonne adaptation au cinéma ou à la télévision pour le jeu vidéo?
Putain, c'est une super question, mais franchement, c'est vaste. Hein.
Ouais. Je sais pas s'il peut y avoir une réponse.
On pourrait en faire
exact,
deux.
Parce que
j'ai envie de dire.
La bonne adaptation, elle arrive. Elle s'adapte. Bon, ouais. Voilà. La mauvaise adaptation.
Bah, elle arrive là, elle s'adapte. Elle s'adapte. Bon, ouais. Voilà. Non, ça dépend.
De la licence.
Non, moi je dirais ça dépend du public. Parce que l'exemple plus récent, on va parler d'Assassin's Creed. Je pense que c'est un film qui est très bien adapté. Mm-hmm. Mais pour les fans, je pense que le grand public qui connaît pas le jeu s'y perd.
Je sais pas si j'en avais parlé pendant le podcast, mais c'est pendant un précédent podcast, mais c'est une anecdote très rigolose que tu me rappelles. Je dînais avec mes parents peu de temps après la sortie d'Assassin's Creed, mes parents qui ne sont pas du tout gamers, hein, je le précise.
Ils ont croisé Michael Fassbender.
Et là, mon père me dit, et mon père qui est ni gamer, ni cinéphile, ni rien, il me dit j'ai 63 ans. C'est la première fois de ma vie que je vais voir un film et en sortant, j'ai strictement rien compris. et il me dit, je lui dis, c'est quoi ce film ? Il me dit, Assassin's Creed. Et là, comme dans les mangas, je suis tombé de ma chaise. Il y avait plus que mes pieds en l'air.
T'as été voir Assassin's Creed ?
J'étais étonné, mais surtout qu'ils me disent ça comme ça, j'ai strictement rien compris. Et lui et ma mère étaient complètement médusés. Ils me disaient, il y a même une femme qui est venue à la fin du film leur parler aussi, pareil, sans comprendre. Vous savez qui étaient les méchants dans ce film ? Enfin, ils ont strictement rien pigé. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Je pense que le film Assassin's Creed s'adressait surtout aux fans du jeu.
C'est marrant, moi, rien à voir, hein, mais mon père a le même problème, mais assez régulièrement. Dès qu'il y a des flashbacks dans un film, il est paumé. Et comme c'est quand même une série qu'il y en a maintenant dans quasiment tous les films.
Il a vu Pulp Fiction ou pas ?
Non, Pulp Fiction, il ne peut pas comprendre. Ah non, mais vraiment, c'est marrant, les flashbacks, ça perd les gens des fois.
D'accord, ouais. Mais vous n'avez pas répondu à mes questions, messieurs.
Oui, alors donc pour moi, ouais. Une bonne adaptation, écoute, c'est le respect de l'œuvre originale, originelle, et donc.
Mais c'est obligatoire ça ?
En fait, oui, parce que.
C'est pour ça que je dis, ça dépend de la licence, que je pense qu'un respect pur et simple de ce qu'il y a dans le jeu vidéo, ça colle pas forcément à un film, tu vois.
Prenons un exemple très simple. Ouais. La première adaptation au cinéma d'un jeu vidéo, c'est Super Mario Bros. En 93. Mmh. On est d'accord. Il a pas vraiment réussi à adapter l'univers de Mario tel qu'on connaît. Pas de monde champignon, etc. Dennis Hopper qui devient Bowser, le méchant dinosaure qui
non,
se transforme en humain. Koopa, c'était
King Koopa.
Ah, King Koopa, oui, t'as raison. Mario qui devient un vrai plombier à New York, qui s'appelle Mario, avec son frère Luigi Mario.
C'est une adaptation.
Le dialogue était pas mal d'ailleurs. Au début, il y a la police qui les interroge, je crois. Mm-hmm. Quel est votre nom ? Mario. Mario comment ? Mario. Et vous ? Luigi, non, Luigi Mario, on est frères, etc. Il était marrant le dialogue.
Bon, cela dit, c'est vrai que c'est le vrai nom famille de Mario.
En fait, on dirait qu'ils ont cherché à faire une adaptation littérale et réaliste de ce qu'est Super Mario Bros. Parce que si vous regardez, il y a des références même super discrètes partout. Je me rappelle d'une scène par exemple où ils sont en train de danser dans une boîte de nuit et Mario il se retrouve à faire un slow avec une nana qui a une veste en cuir rouge avec plein d'épines dessus. Mmh. Je suis sûr que c'est pas important pour la narration et la trame principale, mais je suis sûr que c'est une référence au Lakitu. Par exemple, tu sais, les carapaces que Lakitu jetait. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est clairement pas un bon film.
Non, mais avec les combats, qui est tellement con.
Et avec le Super Scope. Il y a le Super Scope de la NES qui est utilisé par Mario et Luigi à un moment. Il y a les bobombes et tout. Enfin, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Mais
son côté complètement
le revoir
décalé rend le truc un peu.
Il est devenu culte. Il a été réédité en Blu-ray là il y a pas très longtemps et il y a des gens qui se sont jetés dessus, je crois.
Ouais. Mais c'est vraiment. C'est un mauvais film que tu regardes pour
en criant youhou.
Ouais.
C'est un peu ça.
Tu regardes pas ça en te disant quel film. Ce que je viens de voir, c'était.
Mais en même temps, les gars, je suis en train de me demander comment est-ce qu'il aurait pu être bien adapté Mario au cinéma.
Il y a eu des tentatives à la télé, justement, auparavant. Puisque
mais en dessin animé.
En dessin animé,
en dessin animé, c'est facile.
Bah oui.
Mais en film, comment tu adaptes Mario
un film qui parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes, parce que les dessins animés, c'était des dessins animés pour enfants. Donc c'est vrai que c'est plus facile.
Mario, pour moi, c'était Mission Impossible. Tu peux pas adapter Mario au cinéma.
Tu lis
pas avec les moyens d'époque, en tout cas.
Mais même maintenant.
Mais tu lis l'histoire de la création de ce film, c'est une plaie de A jusqu'à Z. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que
le mec qui a dû l'écrire au départ, qui s'est dit putain, comment je vais faire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Dustin Hoffman s'était proposé. Ah, je suis bien chaud pour jouer Mario. Le mec qui travaillait chez Nintendo America, qui faisait la liaison entre la production du film et Nintendo, lui, super saucé, Dustin Hoffman, qui propose de lui-même pour jouer dans Super Mario. Et là, t'as le grand patron de Nintendo Japon. Non, Dustin Hoffman, non. Donc ensuite. il propose à Tom Hanks,
Tom Hanks tout jeune à l'époque,
qui accepte de jouer Mario pour 5 millions de dollars. Donc les choses avancent, etc.
Franchement, pour 5 millions de dollars.
Et au final, ils se rendent compte que non.
Joue Mario aussi.
Ouais, moi aussi. Ça va pas le faire, Tom Hanks. Donc ils sont obligés d'annuler avec Tom Hanks. À un moment, ils envisageaient Danny DeVito aussi, mais Danny DeVito ne voulait pas.
Nintendo au Japon a voulu avoir quelqu'un qui ressemblait à Mario. Un peu bonhomme, un peu moustachu.
Et même après sur le tournage, il y a eu des blessures, parce qu'ils ont vraiment toutes les villes qu'on voit.
Des blessures d'amour. Ça a été vraiment
construit dans un studio en Caroline du Nord ou je ne sais plus où. Et il picolait sur le tournage, il y a eu des problèmes, des accidents. Enfin, c'est un bordel pas possible, ce film. En plus des changements de scénario, des désaccords avec Nintendo, etc. Ça a été l'enfer de A jusqu'à Z.
Et c'est justement peut-être aussi un des soucis du jeu vidéo quand on essaie de l'adapter, c'est cette image à l'époque en tout cas de ce côté un peu enfantin. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait du mal à des films comme Street Fighter, qu'on peut voir d'ailleurs tourner sur la bande derrière nous là, son adaptation.
Ouais, ça donnait un grand jeu, hein, le grand film. Là.
Parce que Street Fighter en lui-même, quand vous regardez le pitch, c'est celui du jeu. C'est en gros, vous voyez, il y a le méchant Bison qui est là, et puis tous les autres vont
Boris
essayer
Bison.
De. C'est Mike.
Ouais, mais ça a été adapté un peu. Regarde Ryu et Ken, qui sont plus ou moins des arnaqueurs de mémoire, etc. Alors que Ryu, le mec, il a limite pas de boulot, quoi. C'est juste un vagabond qui passe de pays
ouais,
en
il
pays.
Il est inspiré d'un vrai.
Qui a pour seul but de devenir plus fort et de s'entraîner, etc. Là,
il avait de quoi faire un scénario génial.
Là, c'est un arnaqueur à la manque. Chun-Li, elle essaye de se venger de Bison, mais elle travaille pour une chaîne de télé avec Honda et Balrog. Ouais. Enfin, c'est le
Dalsim
Street Fighter
ne devient Dalsim qu'à la toute fin.
C'est un scientifique.
Ouais, c'est vrai que.
Il fallait
réussir.
Bah là, Blanca, c'est un collègue de Van Damme, de Guile, sur lequel ils font des expériences, etc. Enfin,
mais là, ils avaient essayé de tout caser en même temps. C'est peut-être aussi pour ça. Mais il y avait cette histoire. Moi, je pensais.
Street Fighter, c'est dans le même genre que Mario, pour moi, c'était un peu Mission Impossible en film. En revanche, il a été adapté en long métrage d'animation quelques années auparavant. Et le film était mortel, génial.
Ouais, c'est vrai que niveau animé,
tu prends le film d'animation dont tu parles, qui était effectivement très bon et beaucoup plus fidèle finalement à la mythologie. Vu l'histoire qui est racontée dans ce film d'animation, ça aurait été pas dingue de faire exactement la même chose avec de vrais acteurs.
Non, parce que c'est pas assez sérieux.
Ça serait trop kitsch.
Pour le faire en image réelle, ouais, ça serait complètement. Enfin, il y avait pas grand chose en scénario quand même, hein, honnêtement. C'est pas le scénario
dans le film avec Jean-Claude Van Damme, il n'y a pas grand chose non plus.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas grand chose dans le matériel de base. C'est vrai qu'adapter Mario et Street Fighter.
Voilà, le problème
le premier souvenir de film plutôt réussi tiré d'un jeu vidéo, c'était Silent Hill. Mm. Bon, bah c'est quand même beaucoup plus facile d'adapter Silent Hill que Mario ou Street Fighter. Quoi.
Le problème avec Mario, c'est qu'il n'y a effectivement pas d'histoire en fait. Mm. C'est Bowser qui kidnappe la princesse.
Oui, et puis c'est le royaume champignon et machin. Enfin,
on peut pas vraiment faire du Game of Thrones avec Mario.
Mario, tu pourrais en faire un bon film entre guillemets en image de synthèse maintenant. Ça serait Pixar-like ou un truc comme ça.
Un dessin animé en image de synthèse.
Ça irait. Après, tu dis le premier bon film tiré d'un jeu vidéo.
Ah, je sais que t'as une petite préférence.
Silent Hill, j'avais bien aimé aussi. Mais pour moi, le premier film qui colle à l'univers du jeu et qui fonctionne pas trop mal, si on garde bien l'esprit du type de film dont il s'agit, c'est Mortal Kombat.
Ah oui, tout à fait, ouais, t'as raison.
Mortal Kombat, qui, je me souviens très bien, à l'époque, avait été détruit par la critique aussi bien dans la presse jeux vidéo que dans la presse ciné généraliste. Et moi, quand je l'ai vu, je me disais, non, ça fonctionne, ça colle relativement fidèlement.
Est-ce que tu peux nous résumer le scénario parce qu'il est assez surpuissant?
Et ben la Terre va être envahie par méchant Shao Kahn, et il y a un tournoi qui est organisé entre plusieurs dimensions pour éviter que la Terre soit envahie. Il faut que les humains
gagnent. Les représentants de la Terre
gagnent. Donc Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Jax, non, je sais plus.
Jax
en fait partie.
Non, il est dans le 2, Jax, je crois.
Il est dans le 2.
Je suis plus certain.
Bref, ils doivent aider la princesse Kitana, c'est ça? Raiden,
c'est en gros c'est Raiden qui les rassemble.
Voilà, Raiden, il arrive, il fait alors c'est vous qui allez sauver le monde. Et voilà,
et du coup,
il faut qu'il gagne contre le méchant
Goro.
Chansung, voilà, exactement.
Ouais, mais Goro il l'affronte aussi.
Et puis évidemment, c'est Johnny Cage qui le défonce à coups de.
Et tu sens que c'est pas un film avec un budget atomique, mais Mortal Kombat c'est un truc un peu kitsch de base,
Mais il lui avait donné en plus une personnalité supplémentaire par rapport au jeu avec la musique.
Absolument.
Vous
cette musique
que
techno.
Voilà. La musique était un peu. C'était dingo. Et en fait, ils ont réussi. Et ça, ça, tu vois, pour le coup, c'est une bonne adaptation. Parce que, quelle que soit la qualité du film au final, le matériel de base a été respecté et ils ont été un peu au-delà en créant une dimension supplémentaire.
Ouais. Bon, les suites étaient un peu moins heureuses.
Ils ont fait une suite qui se passe juste après le premier film. Ils ont changé Raiden d'ailleurs, c'est plus Christophe Lambert.
Ça,
c'est le père de Dexter qui joue Raiden, qui a plus du tout le même look, mais bref. Mm. Et la suite est catastrophique. C'est vraiment super mauvais, alors que et c'est là quand tu en fait quand tu vois la suite que tu comprends bien, enfin tu comprends encore mieux que le
premier film dans le film quand même.
Oui, il y a un petit peu d'humour, ouais. C'est ça colle à l'univers. Non, Mortal Kombat.
Par contre, je crois qu'on dit Christopher Lambert en fait.
Eux le disent comme ça, mais c'est
tu sais que dans le générique il y a marqué Christopher Lambert.
Ah oui, aux États-Unis, il est connu sous ce nom-là, mais son vrai nom c'est Christophe.
Bah ouais, mais... Et chez nous, depuis les Césars, c'est Dumbo, je crois. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Donc, toi, Mortal Kombat, tu considérais que c'est la première bonne adaptation.
Moi, ouais, je le rejoins. Ouais.
Je te rejoins aussi assez. Je vais donner des chiffres quand même. Il faut savoir que que Street Fighter avait 100 millions de recettes à l'époque. Quand même, c'était pas mal. Et que Mortal Kombat, lui, bah, c'était 122 millions. C'était pas mal. Et c'était Paul W.S. Anderson qui aujourd'hui vient de mettre un point final enfin à l'adaptation de Resident Evil au cinéma. Le septième épisode est arrivé là au cinéma, qui s'appelle Resident Evil The Final Chapter, si je ne m'abuse.
Oui.
Avec Mila Jovovich, que j'embrasse, Mila, si tu nous regardes. Et bah, cette
je suis sûr, elle vient de renouveler son premium, elle me l'a dit la semaine dernière.
Ah bah écoute, ça me fait plaisir, Mila. Toujours est-il que Paul W.S. Anderson est abonné au succès quand même, parce que Resident Evil, quoi qu'on en dise, hein, le premier était pas mal, je trouve. Moi, j'aimais bien.
Non.
Si, franchement, j'aimais bien.
Énorme déception quand j'ai découvert le film Resident Evil à l'époque.
C'est vrai.
Resident Evil, pour moi, ça avait une âme, quoi. Il y avait
ils introduisent
de
nouveaux personnages, voilà, c'est ça.
Il y avait des personnages, mais il y avait aussi une ambiance qui n'était pas du tout la même dans le film.
Toujours est-il
tout
que
changé, quoi.
Abonnement au succès. Le monsieur avec cette série s'est quand même fait 102 millions de recettes pour le premier épisode, 129 pour le deuxième Apocalypse, 148 pour Extinction, 240 pour Rétribution, Afterlife et pour l'instant le plus rentable avec 296 millions de dollars. Et la licence, enfin la franchise cinématographique, va atteindre là, si c'est pas déjà fait, le milliard de dollars quand même.
Ah bah, s'ils l'ont laissé faire 7 films, ouais. C'est pas pour rien. Ça s'était planté complètement.
Qu'est-ce qui fait justement que ça a fonctionné? Parce que là, on vient de le dire, Julo en parlait. C'est pas forcément quelque chose de très fidèle, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes.
Mais parce que justement, ils ont été moins cons, je pense, et ils se sont dit il faut plaire au grand public, voilà, et pas aux 3-4 gamers.
Pourtant, je me rappelle parfaitement qu'on voit Chris Redfield qui est interprété par Wentworth Miller. Ali Larter qui joue Claire Redfield. On a aussi Jill Valentine qui apparaît, on a du Wesker qui apparaît.
Mais ça respecte pas en fait. Mm. Julo a mis le doigt sur la vérité en fait. Si la série marche au ciné, c'est que c'est un film grand public, et je pense que la grande majorité des gens qui vont voir Resident Evil au cinéma sont pas des fans du jeu, tout simplement. Et moi, j'ai vu le premier, vous le savez depuis le temps, je suis un gros fan de Resident. J'ai vu les deux ou trois premiers au ciné.
Moi, j'ai même pas vu un seul autre épisode après le premier.
Mais le premier m'a déçu énormément. Ça crée totalement une nouvelle mythologie. Mais celui qui m'a fait le plus mal profondément, je crois que c'est le 2, avec son gentil Némésis.
Il y a un gentil Némésis dans le 2.
En fait, il crée le Némésis à partir d'un des amis d'Alice, donc l'héroïne incarnée par Mia Jovovich.
Ouais.
Et donc elle se bat contre lui à la fin, mais elle arrive quand même à lui faire comprendre, à lui faire se souvenir qui il est au fond de lui. Et donc t'as Némésis qui se retourne contre les méchants d'Umbrella et trucs comme ça. C'est pas tout simplement pas possible, un Némésis gentil, même si c'est que à la fin pendant quelques secondes. C'est non,
mais moi,
quoi.
Je m'en fous, parce qu'on voit Mila Jovovich qui botte des culs, qui joue avec des flingues, qui fait tout péter, et ça me suffit.
Ouais, c'est de l'action, c'est des zombies, mais des zombies pas trop gore malgré tout, parce que c'est un film qui est pas, c'est pas du Romero hein, niveau violence et trucs comme ça. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas.
Il y avait quand même des gens qui se faisaient, le premier avait une atmosphère un peu plus oppressante, c'était, ça se passait encore dans un manoir, et il y avait quand même un moment, par exemple, je crois que c'est ce couloir là,
les lasers. Ils l'ont refait dans
regarde,
ils l'ont refait,
c'est ça.
Ça, c'est le laboratoire souterrain sous la maison en fait.
Exactement.
Mais ils sont vraiment dans une maison au départ,
au tout début, mais c'est en fait elle se réveille dans une maison, mais tu la vois jamais la maison.
Et donc voilà, il y avait ces fameux lasers où tu avais un des membres de son escouade qui se fait découper en tranches.
C'est peut-être la seule bonne idée du film,
et ça tombait au fur et à mesure. Ouais, c'était toujours ça. Bon, Après, j'ai pas, je suis pas là pour le défendre. Hein. J'aime bien Mila Jovovich, moi, c'est tout. Après, le reste, je m'en fous.
Non, enfin, c'est juste dommage que. C'est juste dommage que ça ait donné ça. Parce que si vous cherchez un peu sur internet, George Romero, donc l'auteur des films de zombies, La Nuit des Morts Vivants, etc., avait écrit un scénario pour. Il était pressenti pour faire l'adaptation de Resident.
Absolument.
Et il a écrit un scénario complet que vous pouvez trouver sur le net. Hein. Le script est totalement là. Et moi, je l'avais lu il y a des années en entier. Et c'est, il y a des petites différences, obligé d'adapter certaines choses.
C'est l'adaptation du premier Resident Evil.
Ouais, et c'est beaucoup plus fidèle.
Ça aurait été vachement bien.
Le truc, tu le lis, et t'es, quand t'es fan de Resident, t'as pas envie de lâcher, en fait. T'as envie de continuer le script pour voir jusqu'où ça va. Après, c'est du Romero, donc forcément, ça aurait été très gore, beaucoup plus visuel, et ça aurait nécessité une classification plus élevée. Et quand tu fais ça, et bah, tu limites forcément le potentiel commercial du film. Et je pense que c'est pour ça que Capcom a pas été dans cette direction-là. Mais pour le coup, son script me plaisait beaucoup plus que celui de Paul W.S. Anderson.
D'ailleurs, il y a eu des adaptations en animées aussi, hein, du côté de Resident Evil. Il y en a une qui va arriver dans pas très longtemps.
Il y a des animations en images de synthèse.
Absolument.
J'en ai eu plusieurs, mais je t'avouerai que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable.
Moi non plus. Je sais que j'en ai vu un, je ne me rappellerai pas de son nom.
Un qui se passe dans un aéroport ou je ne sais plus quoi, avec Léon.
Ah oui, mais c'est celui-là, oui, qui est affreux, qui est sorti en 2010, je crois, un truc comme ça, ou 2011.
Ils en avaient même fait un jeu mobile, mais le nom m'échappe là tout de suite.
Ouais, ça finit en Sion, encore une fois.
Damnation, non, c'est pas ça.
Ouais, peut-être bien. Ça, tout est fini en Sion, de toute façon. C'est toujours Sion, okay, machin, Absolution, Retribution, tout le temps. En permanence. Bon, on va en venir aussi quand même à peut-être l'adaptation la plus attendue au début des années 2000. Messieurs, si je vous dis Tomb Raider.
J'adore comment elle s'appelle, Angelina Jolie.
Bon, on aime tous Angelina Jolie.
Tout le monde aime Angelina Jolie, oui. Non après, c'était vraiment une merde ce film.
Ah, le premier, je suis pas d'accord. Le deuxième, oui. Qui s'appelait Le berceau de la vie, je crois, un truc comme ça.
The Cradle of Life.
The Cradle of Life, exactement. Qui, quand même, le premier avait fait 274 millions de dollars de recettes. Preuve qu'il y avait du monde qui avait envie d'y aller. Vos souvenirs sur ces films ?
Alors, je vais dire, j'ai vu les deux au ciné.
Ouais.
La seule chose dont je me souviens des deux, c'est la chanson de U2.
Ah,
de U2.
D'accord.
Je me souviens plus du tout des films. Je sais qu'elle a une tenue un peu argentée à un moment, mais c'est tout. Je me souviens plus du tout de l'histoire ni de rien.
Mais tu te souviens que t'avais pas trop aimé.
Si je m'en souviens plus, c'est
mais
que.
Oui. Non, mais du sentiment que t'as eu en sortant. Ouais. Moi, je me souviens.
Elle pouvait revenir, je crois. Elle avait la possibilité de revenir un peu dans le passé ou un truc dans le style, et qu'elle pouvait parler avec son papa qui était mort aussi, incarné par John Voight.
Mais déjà, je trouvais qu'Angelina Jolie, physiquement, ça correspondait pas à Lara Croft.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas. Je trouve que c'est pas. Je trouve qu'elle, ça colle pas. Ça m'a jamais enthousiasmé en fait.
Elle est brune. Elle a une forte poitrine.
Je sais pas. Je me l'explique pas. Hein. Je trouve que ça fait pas forcément.
C'était l'époque où elle mangeait encore un peu beaucoup.
Pas trop. Où elle mangeait tout court.
Oui, elle mangeait tout court en fait. Oui. Ouais.
Voilà. Donc malheureusement je peux pas rentrer dans les détails au sujet de Tomb Raider, c'est que je m'en souviens plus.
Bon, en tout cas c'est rebooté. Alicia Vikander va reprendre le rôle. Peut-être que ça va connaître à nouveau le succès au cinéma. Bah, le
étant
épisode.
Donné que en fait les jeux à l'origine étaient quand même bien moins intéressants que le reboot en termes de personnalité, de
absolument,
Lara,
ouais,
d'histoire, etc. On peut présager qu'il en sera de même pour l'adaptation, quoi. C'est ce qui
serait,
oui, pas un mal, quoi.
Du popcorn movie, totalement.
Alors que là, peut-être qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire.
Je pense que Tomb Raider au cinéma en 2018, donc j'imagine, a un fort potentiel. Parce qu'il est dans l'air du temps. Une héroïne, par rapport à ce que les gens demandent, une héroïne forte
une actrice oscarisée qui plus est.
Voilà, une bonne actrice, un personnage qui a besoin d'être soutenu par. Après, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire dans le film, mais une héroïne forte qui a pas besoin d'être soutenue par un homme en permanence, qui arrive à se débrouiller.
Bah, c'était le cas aussi avec Angelina Jolie. Hein.
Qui traverse des épreuves. Ouais, mais Angelina Jolie, vu le
design. Tu sentais too much, de toute façon.
Vu le design et les vêtements, etc., qu'il lui donnait, tu sentais un peu le côté Lara Croft à l'ancienne, toujours, tu sais, les combis super moulantes et trucs comme ça. Tu sentais un peu les arrière-pensées derrière les intentions du film. J'espère pas que le film avec Alicia Vikander sera dans cet état d'esprit-là. Quand on voit les premières photos, Elle a pas l'air d'être sexualisée de ouf, donc.
Non, mais ça ressemble beaucoup au reboot, effectivement. Ouais. Et alors, c'est qui cette fille? Parce que cette actrice, je la connais pas, moi.
Elle, c'est vrai. Elle actrice suédoise qui a été oscarisée pour son second rôle dans The Danish Girl l'année dernière, qui a joué. Alors, moi, j'avais vu un film il y a pas très longtemps avec elle. C'était l'adaptation de The Man from U.N.C.L.E. par Guy Ritchie. Tu sais, cette série des années 60 sur des espions, un espion russe et un espion américain qui sont obligés de collaborer. Et c'était espion. Oh, ça y est, je me rappelle plus.
Avec Henri Cavill, c'est ça. Avec,
ouais, c'est là le film. Oui, c'est avec Henri Cavill.
Donc en fait, c'est ouais, elle a pas fait de pour l'instant de grands films.
Mais peut-être que si, mais je pourrais pas tous te les citer. Voilà.
D'accord.
Mais en tout cas, son
tu
rôle dans
The... plus obscur.
Son rôle dans The Danish Girl a été très remarqué, ce qui lui a valu quand même un Oscar.
Scepter, j'ai vu plein de films avec elle, mais tu peux pas connaître. Mm. Ils sont trop underground.
Non, pas moi. J'en ai pas vu plein avec elle, malheureusement.
Tu peux pas relever ton col là, plus loin.
Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Je rigole. Je rigole.
Bon, on va continuer un petit peu notre survol. Je vais quand même rappeler d'autres chiffres, parce qu'on dit depuis tout à l'heure que, en gros, les jeux au cinéma, c'est pas toujours réservé au grand public, mais quand même, quand on voit les chiffres, là, je vais prendre des chiffres un peu plus récents maintenant. Hein. Alors, en tête, le number one, vous savez lequel c'est ou pas?
Le plus rentable au
le
cinéma?
Le plus rentable de tous les
Resident
temps.
Resident Evil.
Non, c'est
non,
pas
monsieur.
Resident?
Non. Il est tout récent.
Tout récent. Qu'est-ce qu'il y a eu comme adaptation de
Assassin's Creed?
Non.
Bah
non Assassin's Creed est à plus de 200 millions pour l'instant.
Prince of Persia?
Non. Ah, vous savez pas.
Bah
hein.
Merde alors.
Bah, pourtant, c'est assez simple.
Ah,
c'est,
Warcraft.
C'est Warcraft le commencement, absolument. Oui. Ouais. Qui culmine à 433 millions. Bon, plus de la
moitié. Je l'ai pas vu celui-là, mais.
Plus de la moitié en Chine, hein, mais faut pas le dire.
On m'en a dit que du bien.
C'est vrai.
De Warcraft. Je l'ai pas vu moi perso, mais apparemment c'était une adaptation très réussie quoi.
Bah, et pourtant
de ce qu'elle pouvait être.
Pour l'instant, Duncan Jones ne sait toujours pas s'il va avoir le feu vert pour faire une suite malgré cette réussite financière. Il arrive.
Mais il a fait de millions lui.
433.
Ah ouais, mais c'est vachement plus que les autres. En plus, il est genre loin
de. Ah
devant.
Mais pour combien de budget aussi?
Ah bah pour combien de budget? Je crois que c'est plus de 500 millions, hein, il me semble.
Il
me semble
qu'il est pas rentré dans ses frais.
Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Il me semble qu'il est. S'il a dépassé, c'est tout limite. Hein.
Ouais.
C'est pour ça qu'ils savent pas s'ils font.
Ah bah voilà. Si un film, un film de ce budget-là arrive à peine à se rentabiliser, tu comprends pourquoi ils font pas de suite. T'sais, maintenant, ils mettent en chantier des suites. Mm. Quand t'as surcartonné et que t'as de loin dépassé ton budget, quand t'es juste, bah en principe, ils préfèrent jouer la prudence.
Et le deuxième, messieurs, c'est Angry Birds avec 349 millions.
J'avais sérieusement
oublié ce truc.
Ouais, 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 mais pourtant ça marche, regardez, hein, il suffit de prendre une licence bien connue. Là, pour le coup, on peut pas faire plus grand public.
Et c'est familial, voilà.
On peut pas faire plus grand public. En plus, voilà, ils ont fait un film familial en 3D là.
Et donc derrière, Need for Speed est quand même à 203 millions.
Attends, Need for Speed, je me rappelais même pas qu'il y avait eu un film.
Mais si, avec Aaron Paul. Tu sais, le petit.
Ouais, de Breaking Bad, c'est
petit
ça.
Petit Jesse de Breaking Bad, ouais.
Mais ouais, non, je me rappelle
pas. Ça fonctionne.
Bah là, tu surfes sur la vague de films à la Fast and Furious.
Voilà,
en plus,
t'as la licence
Need for Speed.
Oui, mais alors, c'est une licence qui veut rien dire. Enfin, je veux dire, il y a pas de. C'est que des jeux différents
oui,
à chaque fois, avec des personnages différents.
J'en ai oublié un, c'était Prince of Persia, on en parlait tout à l'heure. C'est 336 millions pour Prince of Persia.
Mais regarde.
Bah, c'était pas si mal, Prince of Persia. Ils ont. Bah, par rapport à tout ce qu'on vient de citer jusqu'à maintenant, c'est aussi un des trucs qui était plutôt pas trop mal foutu.
Mais tu sais, pour Need for Speed, le calcul, il est pas si fou que ça parce que. Tu vois les films à la Fast and Furious que les films à la Fast and Furious fonctionnent plutôt bien en ce moment. Tu veux en faire un avec ton studio, mais là le sortir comme ça, le sortir tel quel avec
un titre, ronflant,
voilà, avec un titre lambda, c'est compliqué. La Fast and Furious, Need for Speed, c'est une série de jeux vidéo qui est quand même assez mythique, qui existe depuis plus de 20 ans.
Qui résonne dans la tête des gens.
Voilà, qui existe depuis 20 ans et donc les gens connaissent. Ça te donne une thématique qui colle plus ou moins. C'était pas un calcul complètement idiot.
Ah non, c'est intelligent.
Il y aura un numéro 2 à tous les coups. C'est presque.
Bah en tout cas, j'espère qu'ils le baseront pas sur l'histoire du dernier jeu parce que. Hey yo mec. Tu montres comment t'as tué
en fait,
ta caisse.
Ils vont reprendre toutes ces scènes-là, ils vont prendre les mêmes acteurs et ils vont juste mettre les scènes entre les différentes cinématiques. Ça ferait un film.
Ça fait quand même du monde qui va au cinéma pour voir tout ça.
Bah oui.
Ouais, ça vous surprend pas?
Si.
Prince of Persia, ça me surprend un peu. Need for Speed, pour le coup, non moins. Angry Birds, bah non, c'est logique. Et Warcraft, ouais.
Bah Warcraft, bon, World of Warcraft, forcément, quand on est le MMORPG peut-être le plus joué de tous les temps, on a un peu une obligation de, d'attirer du monde, quoi, dont plus de la moitié en Chine, je le rappelle. Donc voilà.
Hein. Mais tu sais que maintenant, c'est un calcul. Hein. S'adresser au marché chinois, tu regardes les films comme les... Comment dire, les films de super-héros Marvel, maintenant ils font des versions spéciales pour la Chine où ils rajoutent une ou deux scènes avec des acteurs chinois connus, des scènes que tu peux facilement supprimer de la version internationale, ça change rien à l'intrigue. Mais les Chinois ils vont au ciné, oh, regardez machin avec Robert Downey Jr., ils sont contents et ça fait du cash en plus. Le marché chinois, ouais, le marché chinois,
on n'a pas les mêmes versions qu'eux, ils ont des versions avec des acteurs chinois en plus,
ouais, ouais, une scène ou deux, pas tous, hein, mais ils l'ont fait. Je crois qu'ils l'avaient fait pour Avengers 2 ou pour Iron Man 3, je ne sais plus,
c'est incroyable.
Et ouais, la Chine maintenant, c'est en termes de ciné, c'est une vraie cible.
S'ils ont fait plus de la moitié de Warcraft, c'est quand même.
Parce qu'ils jouent beaucoup sur PC, les Chinois.
Ouais. Ouais.
Donc c'est ça aussi.
Puis pour une fois qu'un film n'est pas interdit.
Il y a enfin un film qui sort.
Ouais, il y a un film qui arrive sur un jeu vidéo. Vite, vite, on y va. Dépêchons-nous. On parlait de Silent Hill tout à l'heure, messieurs. Bon, on va pas parler du deuxième épisode qui est
adapté
un peu,
par le réalisateur français, voilà, Christophe
Gans, qui avait déjà rendu un bel hommage à Soul Calibur à la fin du Pacte des Loups. Rappelez-vous.
Ouais. Okay.
Voilà, attends.
Tu sais, Vincent Cassel quand il se bat.
Ouais.
Tu te rappelles de son épée ou pas?
Elle ressemble à Soul Calibur, c'est ça?
Bah, c'est Soul Calibur. C'est l'épée d'Ivy dans Soul Calibur.
Ah oui, avec le truc qui se déplie là, enfin qui se,
qui devient un fouet épée.
Ah oui, effectivement, peut-être. Il avait.
Au XVIIIe siècle, pardon, un Grégoire de Fronsac qui fait du kung-fu avec un Indien à poil qui dit des gens sont morts ici. J'entends leur cri. Plus le coup
mais
de
pas n'importe quel Indien.
Oui, bien sûr, Marc Dacascos, dont on va parler juste après.
Mais
pour
justement,
une autre
il avait fait tourner aussi Marc Dacascos dans une autre adaptation, mais d'un manga cette fois, qui s'appelait Crying Freeman, et qui était pas mal adapté. En fait, c'est un
qui
gros
était génial.
Geek,
absolument.
Notre ami.
Mais je crois qu'il essaie de travailler.
Christophe Gans.
Ouais, il essaie de travailler sur d'autres licences, hein, il me semble. Il y a pas mal.
Mais tu sais, c'est Christophe Gans qui avait lancé en France la série de cassettes vidéo puis de DVD HK.
Ah bah oui, les trucs.
Il a fait rentrer le cinéma.
Grâce à lui, on a vu les films de John Woo. Et
bah, il était une fois en Chine.
C'était pas HK justement qui avait édité le film, enfin le dessin animé Street Fighter en...
Non, c'était un manga vidéo.
Ah ouais, c'était pas ton cam?
Non, c'était manga vidéo.
D'accord.
Mais pour revenir à Silent Hill, ce qui est bien avec ce film-là, c'est que justement, c'est un film qui peut être vu aussi bien par le grand public, enfin le grand public en âge bien évidemment, et les gamers. Et les gamers en sortiront pas frustrés, et le grand public pourra suivre l'intrigue de A jusqu'à Z, un film tout à fait correct en termes de qualité, et sans être perdu en fait. C'est un film qui peut plaire à tout le monde, aussi bien aux gamers qu'aux non-gamers, et c'est pour ça que c'est bien fait.
Et puis dans Silent Hill, il y a quand même un truc dans le pitch qui est génial, qui n'a pas été vu dans d'autres films, qui n'a pas été vu dans d'autres jeux, etc. Cette histoire du monde parallèle, enfin de
change,
la ville parallèle, etc. Enfin... Et puis je trouve qu'il avait été hyper respectueux du style.
Ah, complètement,
fait.
Ouais.
Voilà. Tu retrouvais le style Silent Hill et certains des personnages, même, hein, des Stromzarbi et tout. Esthétiquement, c'était vraiment beau. Jusqu'à l'affiche du film, je sais pas si vous vous souvenez.
C'était la petite fille avec
la petite fille
sans
bouche. Ouais. C'était vraiment assez flippant avec l'affiche. Et puis voilà, le début qui ressemble au début de Silent Hill 2, etc. Enfin, je sais pas. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et puis quand tu connaissais pas, effectivement, tu suivais le film. Voilà, il y avait un bon suspense, un bon final.
Ça marche bien.
C'était pas un grand film, quoi, mais on va dire que
c'était
réussi. Et en plus d'être un film réussi, c'était une bonne adaptation du jeu, quoi.
Ouais, le jeu vidéo qui a intéressé quand même beaucoup de cinéastes réputés, à commencer par Christophe Gans, donc qui aime.
Mais Christophe Gans, tu vois le geek, quoi. Il est ultra respectueux du jeu original. Alors que ce qui a été fait sur Resident Evil, c'est tout le contraire pour moi, quoi. C'est on s'affranchit de tout. Bon, on garde.
On en fait quelque chose
pour
le cinéma.
Voilà,
et
on
pour
garde
le fric,
vaguement 2-3 trucs pour que les abrutis qui jouent aux jeux vidéo là soient contents. Puis sinon, on essaie de faire un truc qui va bien marcher, etc.
Bah, Resident Evil, c'est un truc complètement mercantile, mais purement. Voilà. Enfin, Silent Hill aussi, au final.
Silent Hill, tu ressens dans tout que c'est respectueux.
Non, ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui créent un film, c'est dans le but que ça marche bien.
Bien
que
sûr.
Ça génère de l'argent.
Oui, tu peux difficilement te dire bon, je vais faire un film, mais par contre j'ai envie que ça fasse un bide.
Alors que Resident par exemple, tu sens la démarche commerciale sans vraiment sentir
la
démarche de respect.
Mais moi,
ce
que je ressentais en tant que gamer, c'est que je ressentais que les gens qui faisaient le film Resident Evil
connaissaient,
avaient peur.
Pas.
Ah. Avaient peur de, ils n'avaient pas confiance dans le truc originel. Alors que dans Silent Hill, poussé par Christophe Gans, qui a un nom, etc., il a imposé ça et lui avait confiance dans le, truc originel. Mmh. Et donc, c'était pas un problème pour lui de l'adapter. Tu vois, je sentais. Dans les mauvaises adaptations, tu sens un peu la frilosité du mec qui connaît pas très bien et qui a pas confiance. Alors que là, Christophe Gans, 100% confiance dans Silent Hill, ça peut faire. Il pensait sincèrement que le jeu tel qu'il était pouvait faire un bon film si on, voilà, si on changeait deux trois trucs.
Et il a eu raison.
Grand bien lui en a pris. Ouais.
Absolument.
Voilà, donc c'est pas un grand film, mais pour moi, c'est. Je me souviens quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est le premier film bien adapté. Et effectivement, il y avait Mortal Kombat, mais on va dire que Mortal Kombat, c'est quand même moins intéressant à adapter.
Bah clairement, bah c'est voilà. Un film de baston.
Voilà. Bah c'est pas, disons, c'est pas du front. Il n'y a pas une mythologie aussi intrigante. Il n'y a pas une ambiance. Il n'y a pas une atmosphère.
Je le dirai quand je croiserai que Julo said Law of the Forehead.
Law of the Forehead. Vous vous souvenez de l'époque où on parlait d'une adaptation de Metroid par John Woo ou pas? Parce que je voulais, c'est à ça que je voulais en venir, c'est qu'il y avait il y avait quand même des cinéastes, pas mal de cinéastes avec qui on était en pourparlers hein, pour le cinéma, notamment le.
Janou, j'aurais vu adapter autre chose que Metroid.
Bah c'était sur ça qu'il avait jeté son dévolu, il avait les droits et tout, mais il a jamais rien fait avec.
On a les droits.
Il avait les droits.
Ouais, il avait
et
les
pour
droits.
Pas cher en faire plus. Ça.
Ah oui, mais il devait le faire en 2005 ou 2006. C'était parti.
Moi j'adore Janou, mais putain j'aurais pas.
Bah arrête, il peut tout faire.
Petit à part.
Non mais il y a d'autres trucs qu'il aurait pu adapter, tu vois, mais pas.
Tu veux dire Mario?
Putain, ça aurait été marrant. Hey, Mario qui glisse sur les tables remplies de
mais
bière.
Petit aparté, John Woo a fait un truc quand même assez particulier. C'est que lui, il a donné la suite. Enfin, il a fait la suite d'un de ses films en jeu vidéo.
Stranglehold, qui est la suite
de À toute épreuve.
De À toute épreuve, Hardboiled.
Hardboiled,
donc,
qui est un de ses meilleurs films.
Oh, okay, ouais.
Et donc, la suite avec Chow Yun-fat,
toujours
Chow Yun-fat.
C'est le plus international, je trouve, de ses films.
Et c'est. Donc, ça, c'est assez original pour le coup.
C'est vrai.
Il a décidé d'utiliser le jeu vidéo pour faire la suite de son film avec les mêmes comédiens et ça marchait là pour le coup. Le jeu était tout à fait correct.
Le jeu était super. Je m'étais déplacé à Chicago justement pour jeu. Donc,
Chez Midway.
Absolument. Chez Feu Midway. Et bon, ils nous avaient pas accueillis, John. J'étais un peu déçu, mais bon, tant pis. Bref.
Ils vous ont fait un atelier de glissade sur des plateaux, non?
John ou Metroid, waouh!
Bah ouais, c'était prévu, voilà.
Comme Samus, quoi, elle aurait été trop stylée, quoi. Elle aurait fait des poses en tirant. Et
c'était l'époque où ça commençait à intéresser les grands cinéastes. Aujourd'hui, maintenant, d'autres cinéastes.
J'ai entendu parler de Christophe Nolan qui voudrait reprendre Kirby. Et là, tu te demandes si c'est vrai ou pas. Non, c'est pas vrai.
Non, mais c'est sûr, c'est pas vrai, mais j'étais en train d'imaginer le truc.
Bon, on va faire des petits tours rapides d'autres films ou séries même qui auraient jeté leur dévolu sur le jeu vidéo. On pensait tout à l'heure à Marc Dacascos, évidemment Double Dragon, Romain,
avec
que toi tu as vu.
Putain,
j'ai pas vu.
Avec Alyssa Milano. Je me souviens qu'il est, parce que je l'ai vu pareil il y a super longtemps.
Putain,
c'est une question de
enfin, début des années 90, 94, 95.
Là que les gens se rappellent, hein, Alyssa Milano, c'est la fille de Tony Micheli dans.
Ouais. C'est surtout
dans
Charles,
alors,
c'est Piper, Pro, Phoebe,
je sais plus.
Dans Madame est servie.
Ouais. Voilà,
et,
donc Alyssa
Milano.
Les dans
Charmed, ouais. Double Dragon, la ville est sous les eaux, enfin Hollywood est sous les eaux. Et c'est Robert Patrick le méchant.
Ah bon?
Bah oui, c'était.
Oh, je me souvenais pas de ça. Robert Patrick, le T-1000 de Terminator 2.
Ah bah là, mais c'est de la série, c'est même pas Z quoi. Après, tu peux aller dans les lettres grecques, tu dépasses notre alphabet là. C'était vraiment
naze. Pauvre Mardacascos. Qui avait joué dans Wing Commander qui avait aussi droit à une adaptation au ciné avec Jackie Carillo, et c'était une fois de plus
putain
une merde.
Alors
vous rappelez,
parce qu'il faut savoir aussi qu'on a eu le droit pendant une période à une brochette d'adaptation de licences diverses et variées du jeu vidéo réalisée par ce bon Uwe Boll.
Ah, j'allais poser la question pour Uwe Boll parce que
lui, par
est-ce que lui
pas
il a pas fait il a pas fait du mal justement à ce concept d'adaptation de jeu vidéo.
Je pense qu'il est vraiment fan et c'était un peu un Christophe Gans potentiellement, sauf qu'il n'avait pas le talent de Christophe Gans, et qu'il
faisait
que de la
pas,
merde.
Non. Certainement pas les moyens non plus.
Oui.
Parce que ces films, c'est des budgets relativement.
Oui,
relativement
c'est ce réalisateur allemand. Alors, on va faire vite fait son tableau de chasse quand même.
Il y a Hitman, c'est ça?
Non, pas du tout.
Non. Non, c'est pas lui, Hitman.
Non, Hitman, c'est pas lui. Hitman, on en parlera après.
Avant que tu fasses la liste, il faut aussi voir que les licences adaptées par Uwe Boll, c'est quand même des licences de second, voire de troisième plan. Hein. C'est pas le haut du pavé du jeu vidéo. Il y a House of the Dead. Il y a Postal.
Exact. Ah, t'aimerais bien.
Il y a un truc avec des chevaliers.
C'est Dungeon Siege qu'il a fait avec quand même Jason Statham pour le premier épisode et Dolph Lundgren pour le deuxième.
Il y a un film Dungeon Siege.
Oui, absolument, ouais. Qui s'appelle King Rising.
Putain. Et il n'en a pas fait d'autres que ça ?
Si, si, bien sûr. Il a fait aussi Alone in the Dark avec Christian Slater, tout de même.
Christian Slater.
Blood Rain avec. Ouais.
Qu'est-ce qu'il a été foutre là-dedans ?
Mais non, il cachetonnait à l'époque. Hein, voilà, tu sais, il était au fond du trou. Sa carrière était complètement en pause parce qu'il était, il était alcoolique, cocaïnomane, etc. Il faisait que des conneries.
Il du a coup, fait Mickey Rourke.
Bah oui, non, mais du coup, il était complètement en marge d'Hollywood et Oofball est arrivé. Tiens, fais Alone in the Dark. D'accord, pas de problème. Et puis voilà, il l'a fait et c'était encore
coupé,
une fois.
C'était parfait.
C'était encore une fois une merde. Blood Rain, donc adaptation d'un jeu dans lequel une vampire affronte des nazis avec Christina Loken, donc qui était quand même la méchante de Terminator 3. Donc Postal, tu l'as cité, House of the Dead, Far Cry aussi. J'en oublie pas. Je pense que c'est à peu près tous et c'est déjà pas mal.
Ils sont pas tous sortis au cinéma chez nous.
Non, direct ou DVD pour la plupart.
Ouais.
Et c'est à chaque fois, ça fait très mal quoi. C'est assez affreux.
Les DTV, comme on dit, direct ou vidéo. Mm.
C'est que le mec, il était tellement poussé à bout par les critiques des gens et des
gamers. Non,
les... mais,
ouais.
Allez tous vous faire foutre.
Et il avait dit aussi, il avait provoqué en duel des journalistes, des critiques. Genre, on va faire un match de boxe.
Et ah oui, c'est vrai. Oui.
Il disait, je donnerais tant d'argent si vous acceptez de faire un match de boxe contre moi. Il y a quelques journalistes, parce que lui était un ancien boxeur. Quelques journalistes ont accepté et ils se sont fait défoncer.
C'est
par Uwe Boll.
C'est un personnage.
Les vidéos sont sur YouTube. Hein, tu peux chercher.
C'est un personnage, hein, Uwe Boll, mais
c'est génial.
J'ai fini par tout envoyer chier.
Je me rappelle que Denis Brusso, qui était pigiste à Joypad et à Jvideo Magazine, avait eu l'occasion d'aller rencontrer justement et qu'il n'était pas tombé du tout sur le personnage Uwe Boll. Il avait eu l'occasion de parler avec le mec quoi, et il était très très conscient de qui faisait de la merde quoi, tout simplement, qu'il était pas du tout un grand cinéaste quoi que ce soit, mais il avait vraiment cette envie et cette passion de vouloir faire, de vouloir adapter ses jeux en film.
Après je me dis, mais comment il faisait pour continuer à être financé, tu vois? Mais c'est que c'est en location. Mmh.
Et peut-être que les films, peut-être que ces films étaient malgré tout, ils devaient pas coûter bien
voilà,
cher.
Ils devaient pas coûter.
Mais il y avait
cher.
La curiosité, je pense aussi. La curiosité des gens de vouloir savoir, tiens, un film à aussi.
Non, mais ça se trouve, ils faisaient du pognon. Attends.
Oui, mais je pense voilà, ouais. Non, mais c'est ce que je te dis. En location ou à la diffusion sur des chaînes qui te passent ça, des chaînes de la TNT qui te passent ça le dimanche après-midi à 15h. Ouais. Je pense qu'ils faisaient son argent comme ça. Mais à la place d'un éditeur de jeu, je suis Sega par exemple, t'as Uwe Boll qui vient sonner. Ouais, je serais bien intéressé par la licence. C'est très gentil, on est honoré,
mais pas vous.
Mais non, merci.
Peut-être pas aujourd'hui, alors non, demain.
Ouais, repasse dans 3 ans.
Mais est-ce qu'il a pas fait du... Alors, je repose la question, est-ce que lui n'a pas fait du mal justement aux adaptations
Non, parce que c'était pas des grosses licences.
Ouais. Ouais, puis je sais pas si dans le milieu du cinéma ou dans le grand public, etc., il y a des gens qui, à cause de
ouais,
lui,
mais justement, après,
vont
les producteurs...
soit ne plus produire, soit ne plus aller voir de films.
Les producteurs ou le public qui est visé, c'est-à-dire les gamers à la base, hein, on peut dire quand même qu'à la base, c'est quand même les joueurs qui sont.
Ah ouais, ouais. Non,
le
il a
cœur
fait du mal
cible.
Aux licences qu'il a adaptées, certainement.
Et du coup, voilà, peut-être qu'échaudés, les joueurs se sont dit, oh là là.
Je pense que
force des adaptations, j'en ai marre.
Je pense que les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont déjà de base une mauvaise réputation. Mm. Et ça remonte à Super Mario Bros. Hein, et c'est un truc qui colle à la peau, souvent à juste titre, depuis plus de 20 ans. Et c'est pas Uwe Boll qui va changer ça. En fait, il confirme juste les a priori de certains. Tu vois, c'est une adaptation de jeux vidéo.
Alors
c'est
de très rares films comme Silent Hill qu'on a cité là, et on parlera d'Assassin's Creed tout à l'heure, vont dans le sens inverse et vont plutôt convaincre qu'autre chose. Quoi.
Bah, plus ça va être de grosses productions avec des gros budgets, parce que finalement, Mortal Kombat ou Street Fighter, des trucs comme ça, ça reste des petits films.
Mais des fois, ça peut être aussi vampirisé par le fait que bon, on met un gros budget, mais le gros budget, ça va être pour l'acteur principal, parce que sinon, ça ne vendra pas quoi. Bah, on va pas mettre Toto qui vient d'avoir son diplôme du cours Florent pour interpréter le héros de Warcraft ou d'Assassin's Creed, justement. Il faut mettre un grand nom, et ça peut complètement drainer tous les fonds. Qui sont attribués au film.
Oh, tous les fonds,
ça peut
pas,
jouer. Hein. Mais... Regarde par exemple pour Watch Dogs ou The Division, il y aura Jake Gyllenhaal et
qui était déjà dans Prince of Persia.
Qui était déjà dans Prince of Persia, absolument. Et comment elle s'appelle? Tu vas me la retrouver. Je sais que tu vas me la retrouver. La rouquine.
Jessica Chastain.
Voilà. Donc il y aura quand même ces deux personnes-là en tête d'affiche. Ça, est-ce que ça fait pas un peu peur pour le reste? du financement, du côté des scripts. Bon, bah après, si c'est Pénélope Fillon, ça devrait aller.
Après, bon, il y a évidemment des questions d'argent, mais je pense que ces comédiens-là ont un degré de notoriété qui leur permet
parfois,
de
ils sont pas producteurs
accepter,
aussi, hein.
Voilà, de ne pas accepter tous les projets juste pour cachetonner, tu vois. Donc,
parfois, ils sont producteurs, c'est des paris aussi. Eux-mêmes cachetonnent pas tant que ça et sont producteurs et donc se disent que si le film marche bien, c'est le cas par exemple de. Putain, comment il s'appelle Fassbender dans Assassin's Creed. Il est producteur du film. Il est pas seulement.
Il
pas seulement
le rôle principal. À mon avis, il doutait que le film allait être rentable et qu'il allait pouvoir.
Non, mais il a agi pour que ça se fasse.
Ouais, mais après, tu sais, le rôle de producteur, ça peut aussi être la carotte du studio. Genre, ils veulent un comédien qui est très célèbre et très populaire, mais il est un petit peu, il est un peu hésitant. Bon, bah, on te donne aussi le poste de producteur. Comme ça implique des retombées financières supplémentaires pour lui.
Si jamais il est pas content sur une ligne de script, il peut la changer et dire bah oui, mais comme vous voyez, je suis impliqué et tout, j'ai pas envie de dire ça, je préfère que mon personnage dise ça, etc. Ça lui permet aussi d'avoir un certain contrôle sur la chose et des retombées financières évidemment.
Mais alors, je fais un petit écart, mais dans tous les jeux, les adaptations qu'on a citées jusqu'à présent, on n'en a pas cité une qui est vraiment genre de quatrième plan, mais que moi j'avais vu par curiosité un peu morbide, et finalement je me suis dit ça colle bien avec l'univers. C'est Dead or Alive. Dead or Alive, il faut garder à l'esprit que c'est quand même un des univers les plus cons du jeu vidéo.
Je me souviens quand j'ai vu la bande annonce la première fois, je crois que j'étais à Joypad à ce moment là j'étais avec Kim, on a regardé la bande annonce, on a fait mais qu'est-ce que c'est.
Mais c'est des.
Ça a l'air tellement bête.
C'est que des actrices. C'est des actrices slash mannequins slash chanteuses. T'as Kevin Nash qui est un catcheur très connu qui joue le rôle de. C'est Bass, je crois, dans Dead or Alive, qui est un catcheur dans le jeu. Donc ils ont pris un catcheur pour le jouer. C'est le mélange entre Dead or Alive, le jeu de combat.
Et
Dead or Alive Extreme, tu sais, le côté Extreme Beach Volleyball, le truc un peu les petites nanas en petites tenues qui jouent sur la plage, etc. Et le film. C'est pas un bon film, hein. faut garder ça à l'esprit. Colle à l'esprit et à l'univers du jeu, quoi. Donc pour le coup, c'est une réussite. À un film Dead or Alive, tu peux difficilement lui en demander plus, enfin de faire mieux que le jeu dont il s'inspire. Donc pour ça c'était correct.
Belle parenthèse Dead or Alive, j'ai failli l'oublier. Bon, on peut aussi citer Hitman, qui n'est pas du tout un film sur l'infiltration. Hein. À chaque fois, les deux films qui sont parus sont des films d'action.
Avec Hitman, ça fait partie de ces licences où il y avait un truc intéressant à faire. Je trouvais il est intéressant ce personnage, son histoire, etc. Telle qu'elle a été développée dans les jeux, elle aurait pu être encore plus et mieux développée dans un film. Bon, pas du tout, quoi. Ils en ont fait un truc d'action un peu naze, quoi.
Et quand on parle avec le président du Duo Interactive, il dit bah voilà, ils ont pris un truc, ils ont fait une adaptation au cinéma parce que la formule du jeu pourrait pas forcément.
Mais t'imagines un film où le mec il fait que de l'infiltration.
Mais non, mais je te parle pas d'infiltration
pendant tout le film.
Tu peux créer de la tension avec ça, hein, franchement. Déjà qu'on se sépare quand même pour le cinéma, on se sépare de la notion d'interactivité qui est quand même quelque chose de.
Et puis il y a un humour dans
Hitman.
C'est
pour ça
aussi
que ça marche pas avec toutes les licences. Ouais. Ça peut pas marcher avec toutes les licences.
Ouais, c'est vrai qu'il y a un humour dans Hitman là. Là, les deux, ils sont humoristiques.
Parce que ce qui est marrant dans Hitman,
eux,
c'est comment ils tuent les gens. C'est-à-dire, parfois, ils arrivent pas à faire un truc et il y a un moyen d'étourner.
Ce qui me fait penser là pour les premiums qui regardent, il y a un point commun entre le premier Hitman et l'adaptation de Max Payne avec Mark Wahlberg. Le connaissez-vous?
L'actrice.
Exactement, bien Julo, c'est Olga Kurylenko, l'actrice ukrainienne qui effectivement joue dans les deux.
Tu vois, pour le
coup, j'en savais rien du tout, mais venant de plume, c'était forcément une meuf.
Oh la vache, dis donc, c'est
mais
quoi
tu
ça
vois, tu vois,
bah,
pour
quoi,
le coup,
il est amoureux de toutes les filles que t'as vues
dans ta vie, t'as retenu leur nom, genre Kurylenko.
Tu sais, moi je te préfère toi, hein, mais c'est une autre histoire.
Tu vois, Max Payne,
tu m'auras jamais, moi.
Max Payne, j'aime beaucoup la série de jeux.
Mais là, ils sont vraiment éloignés du truc.
Ouais, mais même transposé, même si tu prends purement Max Payne et que tu le transposes en jeu vidéo, ça devient un film policier, action slash policier, comme on en a vu énormément en fait, parce que l'intrigue elle est pas particulièrement originale, donc ça peut faire un bon film, mais ça fera pas un grand film, je pense.
Il y a eu aussi du Tekken,
y a aussi toutes les adaptations qui ont été faites en Asie, principalement pour le marché japonais. Il y a Tekken, je crois qu'il y a eu King of Fighters aussi.
Absolument. Bah, si on compte aussi les animés, à peu près tous les jeux vidéo ont eu droit à des séries animées.
Parce qu'après, t'as Pokémon, t'as Yo-Kai Watch, t'as.
Pokémon, le film d'ailleurs, le premier, j'ai le chiffre sous les yeux, il avait fait 140 millions la première fois quand il est sorti, c'était en 97 ou 98, je ne sais plus.
99 Je crois,
ouais. C'est toi le fan de Pokémon, c'est toi qui sais.
Dans ces eaux-là, 99-2000.
Ouais, 140 millions quand même, donc c'était un beau chiffre. Il y en a un autre qui va arriver.
Fan, c'est un bien grand mot, mais j'aime bien les jeux Pokémon. Ouais. Je ne déteste pas.
Bon, donc ça fait quand même En fait, quand on regarde en général, on se dit bon, il y a pas eu tant d'adaptations que ça, et puis elles sont toutes pourries. Mais au final, quand on fait la liste, là, comme ça, quand on les regarde les uns après les autres, bon,
après, deux secondes, t'as oublié Yakuza.
Bah, j'allais le dire, Yakuza.
Ah bah, parce que tu parlais de Tekken, King of Fighters, on parlait des
Yakuza,
des
mais il y a aussi Phoenix Wright qui a eu droit à une adaptation. Il y a aussi des. On peut parler du théâtre aussi, hein, Resident Evil a eu droit à une pièce de théâtre.
Phoenix Wright aussi.
Phoenix Wright, voilà. Enfin,
comédie musicale, je crois, non, c'est pas ça. Pour Phoenix Wright.
Non. Je crois pas.
Et Yakuza, j'ai vu là, ils viennent d'annoncer au Japon, t'as une série télé là que tu peux louer en DVD depuis peu. Donc ouais, ça, le jeu vidéo se répand sur tout.
On n'a pas parlé des créatures de l'esprit encore.
Moi je veux bien, parce que je vais le défendre.
C'est vrai, tu vas le défendre ?
Ouais.
Bah vas-y, dis-moi alors.
Bah, je pense que les gens
Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Donc
les gens ont été extrêmement déçus de voir que c'était un Final Fantasy dans le futur déjà.
C'était pas un Final Fantasy quoi.
Ensuite, bah si. Final Fantasy, le propre de Final Fantasy, c'est de nous emmener à chaque fois, à chaque épisode, dans des univers différents avec des personnages différents.
Mm-hmm. Mais de garder une base quand même assez.
Et c'est quoi la base d'après toi ?
Bah je sais pas.
Bah, c'est la fantasy. C'est.
Bah ouais, enfin là. Oui, mais enfin,
ça se passe dans le futur.
Il y a aussi des chocobos, les moogles, c'est ce genre de trucs qu'on aime bien avoir à nous. Tu vois.
Mais moi, je me souviens avoir été vraiment. Moi, j'étais impressionné.
Techniquement, j'avais été bluffé.
Putain, c'était dingue quoi, les visages et tout.
Parce que ça commence à remonter hein, ce film bah, mine de rien.
C'est quoi, c'est
2002 non
début 2000 ouais. En fait le film c'est pareil, il s'est fait casser la gueule par tout le monde, mais il était pas bon hein. c'était pas un grand film, mais enfin je sais pas, je trouve ça passait quoi, et surtout m'en suis pris plein la gueule au cinéma quoi, vraiment. Donc voilà, dire que c'est l'une des pires adaptations pour moi, je le ferais rentrer plutôt parmi les Silent Hill, Mortal Kombat,
carrément.
Bah oui, bah, que bah, tu regardes non. Ce qu'il y a à côté, il y a que des merdes. Bah je sais pas. À part cela que je viens de citer, c'est que des merdes, non ? On est d'accord ?
Pas toujours, non. Okay. T'exagères un peu quand même.
Bah, je sais pas, Tomb Raider, machin et tout. Bref.
Bon, on n'a pas parlé.
Je trouve pas ça si mal à côté.
On n'a pas parlé non plus de The Rock, qui s'est quand même bien intéressé aux jeux vidéo avec Doom et qui va revenir avec.
Ça, je l'ai pas vu ça.
Rampage,
absolument, adaptation.
Ça peut être bien. C'était bien Doom ?
Non, c'était pas bien.
Ah bon.
Ça peut être. Tant pis. Rampage, ça peut être rigolo.
Oui.
Parce qu'on est dans une.
Parce que je le vois parfaitement être The Rock, tu vois, devant le loup-garou, le lézard géant et leur mettre une patate, tu vois. Je le vois carrément faire ça.
En fait, on est dans une. On est dans une phase où les licences connus sont utilisés au cinéma, mais pas de manière premier degré. Mmh. Par exemple, ils ont repris 21 Jump Street, qu'ils auraient pu le transformer le concept de la série bêtement en film d'action ou policier de base. Ils ont décidé d'en faire une comédie, de changer totalement le ton, du truc, et ça fonctionnait bien.
Et toi, ils vont comme Starsky et Hutch,
ils vont faire la même chose avec Baywatch, et on dit que potentiellement ça pourrait peut-être.
Toujours avec The Rock, non Baywatch.
Baywatch avec The Rock, et ça pourrait peut-être marcher avec un jeu vidéo aussi, donc Rampage. Qui est un peu un truc un peu décalé, un peu foufou. Mm. Avec The Rock, ouais, ça peut être rigolo.
Mais il y aura Tetris d'ailleurs aussi qui va être adapté.
Sérieusement.
Là, je suis un peu plus méfiant.
Au cinéma. Je sais pas, là, je vois pas.
Comment adapter Tetris en film, quoi. C'est ça.
Minecraft l'idée. Aussi va avoir.
C'est qui
son
le héros
d'abord ?
Ça va être le rectangle, le carré
Moi, j'aurais mis la ligne. Enfin, tu sais, la barre.
Il est plus grand et tout.
Ouais.
Ou le T.
Il est très grand, mais du coup, il bouge pas vite, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Faut voir.
Avec Leonardo DiCaprio dans le rôle du T. Là, parce que le T, c'est celui qui te tire de la mouille souvent.
Ouais,
et il peut s'adapter.
Ah oui, le petit T, oui. Mais c'est vrai que tu peux le mettre un peu partout. Tu peux le glisser au dernier moment comme ça. Hop. Ouais. Ça se trouve, ce sera ça. Hein. Ce sera un T qui sauve l'humanité.
Dans Tetris, t'as souvent deux pièces que t'es content de voir arriver. C'est le T ou la barre.
Ils sont fous, les gens qui ont mis ça en branle quand même.
Je sais pas.
Les mecs,
ou alors c'est que t'as une idée géniale.
Adapte-toi un jeu vidéo. Ouais, ou alors il y a une idée géniale derrière.
Mais c'est Brett Ratner qui produit ça, c'est ça, je crois, Tetris. C'est Brett Ratner, c'est le producteur des Rush Hour, entre autres.
Mmh. Putain, Rush Hour, c'était sympa.
Bah, j'aime bien Rush Hour aussi.
Mais on s'écarte là.
Ouais, on s'écarte.
On s'écarte un peu trop. Bon, on en a cité beaucoup quand même, hein, des adaptations. Au cinéma, la télé, on en reparle vite fait. On a eu droit à des Captain N dans les années 80.
Ça, je m'en rappelle pas du tout.
Moi, je le regardais à la télé, donc je me souviens.
Qui incluait beaucoup de personnages de Nintendo et de Capcom. On se rappelle donc que le héros avait un zapper, et qu'il allait affronter Mama Cervella, donc qui en fait était Mother Brain de Metroid. Il y avait Kid Icarus. Attends, Poufi, il a retrouvé ça. Bah, pour les premiums, vous pouvez voir le générique.
Simon Belmont, Donkey Kong,
qu'ils ont totalement, mais alors absolument travesti.
Voilà, voilà Mama Cervella.
Mama Cervella, ouais. Donc ça, c'était un peu le truc honteux du.
Tu vois, t'as Megaman, t'as Simon ouais. Belmont, t'as tu avais Donkey Kong, King Hippo de Punch Out. Oui, donc il y avait plein de, il y avait Link
aussi. Un personnage de Dragon Quest, un espèce de magicien de bizarre en forme d'aubergine de Dragon Quest. Non, c'était
Link aussi de, dans certains.
Link
épisodes.
Absolument. Bah, d'ailleurs, le Zelda a eu droit à son adaptation en dessin animé aussi.
Un gros succès à la télévision en termes d'adaptation, c'est Sonic, qui depuis le début des années 90 a des adaptations fréquentes et de manière quasi ininterrompue. En
Sonic Boom a bien marché.
Alors,
c'est la dernière adaptation.
Je sais pas si ça a bien marché, ouais. Mais ça continue en tout cas. Moi, je sais que petit, je regardais le tout premier dessin animé Sonic, qui était, c'était du grand n'importe quoi, mais j'aimais bien. Et après, il y en a eu plein d'autres. Et je te dis, depuis 20 ans, il y a une présence quasi ininterrompue de Sonic à la télévision.
Exact. On pense aussi
Pokémon,
à
Pokémon, évidemment.
Ou à, encore une fois, un des padrés du style, c'est Pac-Man.
Jaune comme un ballon, rond comme un citron, c'est Pac-Man.
William Lemergy, si tu nous regardes.
Il court, il
non, par contre, Chulo, tu n'es pas obligé de chanter pendant
malin,
les podcasts.
C'est bon, tu, on va être obligé de. Boule.
Voilà, mais il nous fait le doublage pour les
c'est
premiers.
C'est le premier Pac-Man, donc, pour le coup, à avoir eu le droit à un dessin animé, non?
Je crois bien aussi.
Il n'y a pas eu un dessin animé Pole Position aussi?
Si. Bien sûr.
C'était pas, c'était tiré du jeu,
tu penses?
Non, je pense pas.
C'était du Jean Chalopin, bah, les 85, 86.
Ouais, je regardais ça, je m'en souviens.
Ouais, moi aussi.
Mais je crois pas.
Je me rappelle aussi du générique, mais je crois pas que c'est un rapport avec, avec le jeu. Peut-être, hein, vous nous corrigerez dans les commentaires.
Comme truc
juste en dessous de la news de ce podcast.
Super Mario aussi, donc plusieurs adaptations.
Absolument. Super Mario qui a eu droit d'ailleurs. Un
son
show.
Émission carrément.
Voilà, c'était un show avec Captain
Lou Albano.
Captain Lou Albano qui jouait Mario. Il y avait un crocodile qui se baladait dans les égouts, si je me rappelle.
En fait, c'était le Super Mario Super Show. Donc, t'avais une sorte d'intrigue live, un peu comme une pièce de théâtre avec Mario.
Un peu comme dans le Club Dorothée. Hein,
voilà, avec Mario et Luigi et divers invités en fonction des épisodes.
Qui mangeaient de la pizza tout le temps.
Et entre les séquences de live action, ils te passaient des dessins animés, dont Captain N, dont Super Mario, le dessin animé Super Mario. Et il y en a eu plusieurs. Comme ça.
Voilà, il y a eu des adaptations de Mortal Kombat aussi.
Mortal Kombat, il y a eu dessin animé. Ouais. Il y a eu une série, une première série live qui s'appelait Mortal Kombat Conquest, mais je suis pas certain, qui était un peu kitsch, tu vois, genre limite cosplay.
Ouais. Mortal Kombat kitsch.
Oui. Non, mais encore.
C'est bizarre ça.
Encore plus. Et récemment, par contre,
une web série
pour faire la promo du, c'était Mortal Kombat 10, je crois. Ou 9, c'est pour le 9. Ouais. Une série, elle, qui était beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieuse, qui réinventait un peu la mythologie de Mortal Kombat, qui, elle, était réussie. Pour
qui était très bien réalisée, j'ai le souvenir aussi. Les Lapins Crétins aussi, hein, mine de rien, ils ont quand même fait leur business tranquillement, de leur côté, avec Rayman, d'ailleurs, au passage.
Qui devrait certainement avoir un film d'animation live, en images de synthèse, bientôt.
Voilà, et Dofus, parce qu'on oublie un petit peu aussi que Ankama a réussi à peu près dans
ils
tous
ont
les...
fait eux-mêmes leur cercle vertueux, du coup. Ankama.
Et justement, ça me fait penser que maintenant, pour certains éditeurs ou développeurs de jeux, ça fait partie de l'équation. Je veux dire, on pense par exemple à Yo-Kai Watch, qui lui se balade sur plusieurs médias aussi au passage.
Les transmédias, évidemment, ça fait partie aujourd'hui du paysage jeux vidéo.
Inazuma Eleven, évidemment, je parlais de Sonic Boom tout à l'heure.
Bah, Sony a récemment, pas plus tard que cette semaine, je crois, déclaré justement vouloir mettre l'accent là-dessus. Ce qu'ils se disent. On a PlayStation, on a Sony Pictures, les deux nous appartiennent. On a un catalogue de licences qui est quand même assez conséquent du côté du jeu vidéo, qui nous donne des idées gratuites, parce que vraiment gratuites pour le cinéma. Donc ils vont essayer d'exploiter un peu plus leurs licences.
Et c'est tout à fait logique. Et de la même manière, c'est tout à fait un bon move de la part d'Ubisoft de vouloir créer des films sur ces licences, etc.
Ouais. Nintendo aussi parle de faire aussi un petit déplacement de ce côté-là. Il y a des rumeurs de séries qui ressortent régulièrement.
Parce que autant toutes les adaptations qu'il y a eu avant, elles étaient un peu pourries, mais c'est parce que finalement, les jeux que t'adaptais à l'époque, ils n'avaient pas.
Il y avait cette image de gamin, de toute façon, pour le jeu vidéo.
Mais c'était aussi parce que vraiment, il n'y avait pas de scénario où les scénarios étaient pourris. Et mine de rien, le jeu vidéo progressant dans ce domaine, quand même, on peut pas dire le contraire, hein, depuis deux ou trois générations de consoles, on a désormais des jeux qui cherchent à mettre en place des scénarios un peu complexes, intéressants,
des personnages un peu plus creusés, oui,
des personnages un peu plus profonds, etc. Donc finalement, la matière, elle fait que s'améliorer. Et moi, je suis assez optimiste sur... Autant, je reconnais que tout ce qui a été fait avant, c'est vraiment daubesque. Mmh. Autant, à l'avenir, il y a certainement des trucs intéressants à faire.
Donc le mariage est totalement possible pour vous. C'est possible,
bah, plus que jamais, en fait. Beaucoup, ouais, plus qu'avant, finalement.
Il faut juste que le cinéma... prennent au sérieux le jeu et pas simplement un moyen d'exploiter une licence qui marche bien et pour faire de l'argent vite fait. Après, il y a Activision aussi qui a ouvert une structure pour exploiter ses licences. Il y a la licence Skylanders qui s'est transformé en dessin animé.
Mais c'est fou que Call of Duty, ça soit pas encore au cinéma.
Si, je ne sais plus si c'est une série ou un film, mais je crois qu'il y a un truc qui se trame autour de Call of Duty.
Absolument,
même peut-être,
ouais,
plusieurs trucs. Comme ils ont racheté King aussi, ils veulent faire des trucs avec Candy Crush, certainement en dessin animé. Je sais qu'il y a même un jeu télé Candy Crush qui va... Qui, je sais plus
si
il
y a un film Tetris
pays.
Ça peut être un film Candy Crush,
hein. Oui, on peut même faire Tetris versus Candy Crush, comme ça fait comme Alien vs Predator,
Clash of Generations.
Ouais, un peu, ça fait un peu ça, ouais.
Mais c'est vrai que le symbole, quand même, je trouve récent, c'est quand même le film Assassin's Creed, de ce qu'on est en train de dire sur la qualité grandissante, le transmédia et la matière qui devient meilleure et qui du coup est plus respectable et plus respecté dans les adaptations. Assassin's Creed, c'est vraiment un peu le symbole de...
Toi, tu penses que c'est Assassin's Creed qui marque un petit peu le... Comment dire ? L'envie vraiment de faire les choses bien, quoi.
Ça aurait pu être fait avant, mais avec d'autres... Je pense à Resident Evil qui a été gâché, je trouve. Mm-hmm. Mais c'est vrai que la façon dont Assassin's Creed a été fait... et d'ailleurs, on sent bien qu'Ubisoft, finalement, avait des intérêts parce que... ils n'ont pas juste lâché leur licence à quelqu'un, c'est eux qui participent à, voilà, à absolument tout. Et du coup, on a retrouvé le côté respectueux de la licence. On avait un matériel originel, donc la saga Assassin's Creed, son scénario avec la mémoire ADN, etc., qui est en fait une matière intéressante à travailler et à adapter. Des bons acteurs.
Jeremy Irons, déjà, c'est
voilà,
bon, ça
budget, un budget conséquent. Et surtout, une esthétique franchement très réussie dans ce film. Et là, je pense surtout aux scènes, pas celles qu'on voit actuellement, mais celles qui se passent dans le passé.
En Espagne, donc pendant l'Inquisition.
En Espagne, pendant l'Inquisition, et qui sont magnifiques visuellement, véritablement. Et la façon dont ils ont. Parce que tu peux pas toujours adapter à l'identique un jeu, tu vois, t'es obligé de changer quelques petites choses. Et en l'occurrence, ils ont changé l'animus, notamment, hein, qui est plus juste un siège dans lequel t'es.
Mais c'est plus un caisson à oxygène.
Oui, parce que le personnage bougeait pas, etc. Là, ils ont fait bouger le personnage comme s'il vivait véritablement ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est une espèce de bras articulé. Qui s'accroche dans le bas de son dos et qui lui permet de retranscrire les mouvements qu'il est en train de revivre de son ancêtre dans la réalité. Et tous les trucs un petit peu complexes de Resident Evil, de Assassin's Creed, ont été vraiment utilisés dans le film. Et c'est ça qui, je pense, a perdu ton père et a dû perdre beaucoup de gens du grand public, hein, qui connaissaient pas le jeu vidéo et qui ont été voir ce film.
Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi, ça peut pas être aussi un pont, justement ? Ils ont été voir Assassin's Creed. Bon, le jeu a quand même son aura, la série a quand même son aura dans le monde, elle est quand même assez réputée. Mais est-ce que c'est pas un moyen ? Ils vont voir le jeu, j'ai pas tout compris. Si je commençais à me mettre au jeu.
Mais je pense que après. Je sais pas quel âge a ton père,
63.
Mais je pense que quelqu'un de plus jeune qui ne connaît pas Assassin's Creed va probablement mieux le comprendre parce que voilà quoi, parce qu'on est habitué à voir tout un tas de choses et de jouer à certaines. On veut dire, on a un niveau de compréhension qui va se dégager plus rapidement, pense sur la mémoire génétique, parce que c'est de ça qu'il est question dans Assassin's Creed et que ton père a pas dû.
Je ne sais pas, je pas rentré dans les détails, mais je lui dis qu'il avait pas compris.
Ouais, il a rien compris à la fin, quoi.
Et sur cette question que je posais, Romain,
il y a deux choses. Il y a d'une, il faut rappeler qu'Assassin's Creed au ciné, c'est pas un carton en termes de box office.
Quand même 200 millions, plus de 200
millions,
c'est pas mal.
Par rapport au budget de production, plus au budget marketing, etc., c'est compliqué. Sur Hollywood Reporter, dans la liste des films qui ont le moins bien marché de l'année, il était dedans. Donc,
c'est dommage, sorti fin 2016. En
parce
même temps,
j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait cet épisode pour servir de base et faire d'autres épisodes un peu
plus. C'est une trilogie.
Plus mot, tu dis il est sorti fin 2013, mais ça peu importe. 2016, mais peu importe parce que les films restent pas très longtemps au cinéma à part de rares cas. Donc finalement, ils restent tous plus ou moins autant et peu importe.
Ça met en danger les chantiers sur les suites. Ils en parlaient pas.
Ubisoft a dit que c'était une étape importante. le film Assassin's Creed. Mm. Et tu parlais justement, est-ce que ça va pas ouvrir la curiosité? Ils expliquaient dans leur rapport financier, le conférence téléphonique de cette semaine, que
ça a
justement,
les des jeux
ça a vanté, ça a boosté les ventes des jeux qu'ils appellent historiques, c'est-à-dire des plus anciens épisodes. Mm. Par rapport à la même période l'année dernière, ça a augmenté de plus de 100%, je crois, les ventes.
Ils
devaient pas en vendre beaucoup, mais ils ont senti quand même malgré tout, après la sortie du film, une hausse des ventes de jeux plus anciens. Donc,
donc le cinéma peut faire partie d'un écosystème complet, tout comme la télé d'ailleurs peut le faire aussi, hein, avec comme je le disais tout à l'heure pour Level 5 et ses jeux.
Et tu vois Nintendo qui était, je pense, après Super Mario Bros, ultra frileux à l'idée de confier ses licences au studio. Tu vois d'ailleurs dans Les Mondes de Ralph par exemple, t'as Bowser mais t'as pas Mario. Ils voulaient Mario, hein. Logiquement, quand tu veux faire un film qui fait des références aux jeux vidéo, t'as envie d'utiliser Mario, ils l'ont pas eu. Ils s'assouplissent progressivement Nintendo, ils sont de plus en plus ouverts à l'idée que des studios les contactent pour justement créer des adaptations. Et là, c'est une question que j'allais vous poser. D'après vous, quel est le choix le plus judicieux ? Celui d'Ubisoft, qui est de créer son studio à proprement parler et quasiment tout seul ou avec un partenaire créer ses films de A jusqu'à Z, ou faire le choix de Take-Two qui est de vendre la licence et tout en gardant un contrôle sur ce qui se dit dans les films.
Pour moi, c'est évidemment le choix d'Ubisoft.
Ouais, moi aussi, je pense que Ubisoft a quand même fait quand même quelque chose d'un peu plus sûr.
Parce que si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule bien plus que si tu fais l'autre choix.
Ouais, mais t'as un contrôle peut-être beaucoup plus important et au moins tu meurs avec des idées, quoi.
Ils le font quand même en partenariat avec, des gens dont c'est le métier, à tous les niveaux de l'échelle, quoi. Ils sont pas les seuls à être impliqués dans le projet Assassin's Creed.
Non, bien sûr que non. Voilà, mais c'est pas, ils sont quand même. Ils ont un studio maintenant, tu vois. C'est quand même vachement plus impliqué que de juste vendre ta licence.
Bah, je pense que.
Mais ils sont bien entourés, hein, je crois.
Parce que tu vois, par exemple,
s'ils se prennent trois gamelles de suite, je dis pas, tu vois, mais. Bon, on verra, hein. Mais en tout cas, pour nous, en tant que consommateurs de ces films et de ces jeux, etc., c'est quand même plus intéressant que ceux qui maîtrisent vraiment la licence et qui ont la vision de la licence puissent avoir les rênes un petit peu sur l'artistique, le scénario, le développement et tout ça.
Oui, puis bon, de toute façon, même si Assassin's Creed se pète la gueule, que Watch Dogs se pète la gueule, que The Division se pète la gueule, je peux vous dire que les lapins crétins au cinéma, ça va juste surcartonner, ouais. ça va remplir les caisses à nouveau.
Mais alors, tu vois, Watch Dogs et The Division, bon, alors, ça peut faire des belles adaptations, c'est pas ce que je dis, au contraire, parce que c'est beaucoup plus libre, du coup, parce qu'Assassin's Creed, c'est un scénario quand même qui est déjà existant, hyper étoffé, etc. Mais alors, Watch Dogs...
Bah, me demande pas moi, parce que si tu veux mon avis sur Watch Dogs,
ça va faire un truc un peu bateau, quoi. Et je pense que je veux dire, les grands espoirs, je pense, du côté de chez Ubisoft, ils étaient plutôt sur Assassin's Creed que sur Watch Dogs.
C'est leur licence. Ah oui, il y a Splinter Cell aussi qui est à l'étude, hein.
Moi j'aime
bien
Splinter Cell.
Il devait y avoir Tom Hardy, je crois, dans le rôle de Sam Fisher. C'est vrai qu'on n'en entend plus parler.
Ben, ça a refait parler il y a quelques semaines, mais je me souviens plus exactement de quoi il était question. Mais oui, Splinter Cell, pour le coup, ça pourrait fonctionner.
Ouais. Tom Hardy, il est peut-être un peu occupé, hein. Il a un peu.
Après, c'est de l'infiltration.
Des milliards de trucs. Oui, puis c'est de l'infiltration. Encore une fois, ça va finir en sapette de tous les côtés.
Et après aussi, on n'a pas évoqué, mais tous les projets qui étaient envisagés, parce qu'au fil du temps, il y en a eu, qui ne sont pas concrétisés. Par exemple, il y avait BioShock.
Mais BioShock est peut-être encore pour parler, c'est pas sûr. Hein.
Putain, ouais. BioShock, alors si t'adaptes ça, il faut vraiment adapter le premier épisode, quoi.
Ah bah ouais.
Mais il y a BioShock.
Ou alors faut enrichir l'univers de Rapture, tu vois, autrement. Mais il faut quand même se baser à mort sur.
Et financièrement, c'est un film qui serait extrêmement coûteux, BioShock à produire.
Tu crois ?
Ouais. Bah pour essayer de reproduire de manière
tout
en image de synthèse.
Tout en image de synthèse sur
même
fond vert.
Ça coûte cher.
Ouais. Mais il y a aussi Metal Gear Solid qui aurait dû être adapté et puis au final non. Uncharted est toujours en discussion.
Uncharted, ça ferait un film sympa.
Hein. Uncharted, ce que je pensais, et j'étais pas le seul, hein, c'était qu'ils auraient dû le faire il y a bien plus longtemps et qu'ils auraient dû prendre Nathan Fillion.
Il a pas l'air de Castle. Il est pas bankable au cinéma.
Pas bankable.
C'est un acteur de télé, Nathan Fillion.
C'était le seul acteur que j'imaginais comme héritier d'Harrison Ford pour quand il prend un pain dans la gueule. T'as vraiment l'impression qu'il a pris un pain dans la gueule et il te le fait sentir avec une bonne grimace. Voilà, c'est pour ça que j'aimais bien l'idée que, mais maintenant il est trop vieux et trop gros pour le faire. Donc du coup, ça va être un peu compliqué. Et
ça sera Justin Bieber.
Non, ils avaient parlé de Mark Wahlberg encore une fois, mais là c'est pas possible.
Bah physiquement ça peut coller, mais Mark Wahlberg on le voit partout quoi.
Bah ouais, là ça commence.
Dès que t'as besoin du blanc, 30, 40 ans, un peu musclé, bah tu mets Mark Wahlberg.
Même sur BFM TV, là, je sais pas quelle heure, là, il y a un journaliste, vous avez vu, c'est Mark Wahlberg.
Non. C'est son vrai nom ?
Ah, bah non, mais c'est, il ressemble. Enfin, c'est un, ah non, pour moi, c'est un truc de fou quoi.
Non, c'est vrai, moi quand je commande un truc à bouffer, en général, c'est Mark Wahlberg qui vient me le livrer.
Mais moi j'ai un problème avec Mark Wahlberg, je suis désolé, pour moi je vois Dirk Diggler à chaque fois.
Ah, oui. Boogie Nights.
Boogie Nights.
Boogie Nights et du coup, tu t'imagines son sexe de 3 mètres de long. Bah oui, mais je vois que ça. Moi,
hey, Yelena, ça va ?
Ouais. Oh, la vache. Ce mec a un sexe de 3 mètres de long. Voilà, c'est ça que je me dis à chaque fois que je vois Mark Wahlberg.
Pire que ça,
gênant.
Tu pourrais te souvenir de Marky Mark.
Ah, Marky Mark, la grande époque.
Parce que Mark Wahlberg est devenu célèbre en étant rappeur.
C'était un rappeur, ouais.
Et bah écoute, ouais. Pour moi, c'est juste Dirk.
Et le frère d'un New Kid on the Block, si je ne m'abuse pas.
Aussi, ouais.
Bon.
Et The Last of Us, non ?
Bah justement, j'allais venir sur tous les trucs qui sont prévus.
Ça ferait un putain de film.
Qui sont prévus et qui peuvent nous donner un peu d'espoir ou pas. Je vais vous encore une fois lister un peu. Il y a Mirror's Edge.
C'est ça. Tu dis les noms et nous on dit exactement. Je m'en fous ou je m'en fous pas.
Je m'en fous. Non, j'y crois pas.
J'y crois pas.
Ou j'en veux pas.
D'accord.
Alors, bon, déjà Castlevania sur Netflix en série.
Je veux
à fond.
Bah, de toute façon, moi les trucs de vampires, j'adore.
C'est vrai ?
Ah bah,
tu regardes Vampire Diaries et tout, tu pleures devant les...
Non, mais je trouve que tout a l'air un peu pourri là dans ce qui sort actuellement. Mais un truc, moi j'avais été vachement marqué par le film avec machin là.
Le film avec
Entretien avec avec un vampire. Et j'adore ce genre de film sur l'esthétisation du mythe du vampire et tout ça.
Je suis étonné que t'aies pas dit un vampire à Brooklyn avec
Eddie Murphy.
non, je trouve que ça manque. Donc avec Castlevania, comme c'est vraiment le côté traditionnel du mythe du vampire.
Hein, donc,
Ah, c'est un animé ?
Oui, c'est un animé.
Ah, j'avais pas compris ça.
Eh oui, ça va être
un ascenseur émotionnel là.
Ah, ouais, là je suis un peu.
Bah oui.
Non, mais j'aime bien les animés, hein, mais. Bon, c'est pas grave. D'accord. Bon, c'est quoi qu'il faut répondre ?
T'y crois.
J'y crois.
T'en veux.
J'y crois.
Et toi ? Le Tomb Raider.
Je m'en fous.
Tu t'en fous ?
Le Tomb Raider qui sort en 2018 avec Alicia Vikander.
Oh, j'y crois.
Ah, moi aussi.
J'ai envie d'y croire pour l'instant.
Je m'en fous.
Pareil. Mirror's Edge en série télévisée.
M'en fous.
Je pense qu'il y a plus de chances que ça réussisse qu'en jeu.
Je demande à voir.
Ouais, moi aussi.
J'aime
je pense
bien
que ça peut être plus agréable qu'en jeu. Ouais.
Puisqu'il y a mais il faudrait qu'ils creusent un peu plus que ce qui a été creusé dans le jeu.
Les jeux, à chaque fois, ils sont foirés sur des détails.
Il faut vraiment qu'ils aillent plus loin que ce qui a été creusé dans le jeu. Quoi.
Absolument.
Voilà. L'univers est bien, mais il faut qu'il y a...
Bon, putain. Uncharted.
Uncharted, j'y crois.
Ok.
Ouais. En fait, c'est juste qu'il y a tellement de problèmes de production, de développement depuis le début.
Tranche, j'y crois pas.
Enfin, j'en veux pas. Voilà, plutôt.
J'y crois pas.
Ok. Watch Dogs,
j'y crois pas.
J'y crois ultra pas.
The Division,
ouais, j'y crois pas. C'est peut-être un peu mieux.
Ok.
J'y crois moyen.
Borderlands,
putain, ça peut être génial.
Ouais, j'y crois.
God of War.
Mais là, par contre, faut qu'il crée un scénario, quoi. Parce que
le scénario, c'est des gens qui viennent piller une planète et qui découvrent des artefacts extraterrestres.
Ouais.
Et puis voilà.
Oui, c'est pas.
Il faut qu'ils mettent.
Et puis, s'ils le font, la Starship Troopers. Il y a Tom Jack, qui peut être le.
Non, il faut mettre l'accent sur l'humour à donf.
Ouais, l'humour aussi.
Ce qu'ils ont fait.
Faut voir. À voir.
The Last of Us.
Alors là, j'y crois à mort.
J'y crois, ouais.
The Witcher. Parce qu'il va y avoir un film à Hollywood.
Dangereux. Attention,
là,
danger.
C'est un bouquin à la base, donc.
Oui, et ils ont un matériel à respecter et ouais, tout. C'est pas mal.
Mais il y a déjà une version en Pologne, de film et en série.
Oui,
et...
mais là, je veux pas voir ça.
Bon.
Mais t'avais dit God of War, mais tu nous as pas laissé.
Ah bah, God of War, je vous le redis.
God of War, putain,
ça fait des années.
Ça peut être bien.
Et God of War, j'ai envie d'y croire, mais le problème, c'est comme Resident en fait. C'est un jeu tellement violent et tellement gore que s'ils veulent en faire un. C'est Sony Pictures, s'ils veulent en faire un film grand qui marche.
Si c'est pour voir Kratos qui arrache pas des yeux.
Voilà, du cul, de la violence. Et s'ils sont obligés d'atténuer ça pour pouvoir faire un film qui sort, qui touche quand même un public plus large,
ouais, non,
ça
raison.
Risque de pas être God of War. Donc
t'as
c'est
raison.
Super dangereux.
Mais j'y crois pas.
Ok, donc vous n'y croyez pas. Gears of War qui a quand même été annoncé comme adapté.
Alors Gears of War, ils le font, ils font un truc à la Starship Troopers avec un second degré et tout ça. Là.
Ouais, du Verhoeven quoi. Ouais, Robocop, ouais. Starship Troopers.
Alors s'ils font ça, ça peut être vraiment bien. Avec les dialogues du 2, tu sais, là, on va lui péter les veines du cul, etc.
J'ai peur qu'il ça serait bien, mais j'ai peur qu'il fasse pas ça. Donc Gears of War, je suis
non,
moyen.
Des vrais gros beaufs et tout ça. Non, mais ça serait... Là, ça peut être vraiment réussi, je pense, s'ils font ça.
Bah, il faut qu'ils prennent The Rock déjà.
Alors que si
dans sa version
The
ultime.
The Rock, Seth Rogen, James Franco.
Non, mais attends. Et, par contre, s'ils se mettent au premier degré,
James Franco. Putain, ils fument des joints pendant qu'ils sont en train de. Non, c'est pas possible.
Ah, s'ils le font au premier degré, ça va être nul.
Voilà. Mm. C'est ça le risque.
Alors, Firewatch. aussi qui a été annoncé comme adapté prochainement. Non, vous n'y avez pas joué, donc à mon avis.
Non, mais non, mais non, mais non.
Ne se prononce pas.
Bah, ça va être un film indépendant, Sundance, à mon avis.
Ah non, pardon, je croyais que t'avais dit Overwatch.
Non, Firewatch.
Ah, Firewatch,
c'est
ah, ouais.
qu'Overwatch, ça m'étonnerait pas que ça arrive aussi.
Overwatch, ça pourrait arriver.
Ouais. Ah bah, là, ça cartonnerait en Asie. Bah, je sais pas. Je sais pas.
Voilà, Overwatch, Orion, alors là, au cas où vous n'avez pas joué, je suis seul à qui avoir joué. Le jeu de Kiro Games, qui lui aussi va passer par la case d'adaptation.
Bah là, j'ai envie d'y croire pour toi.
Non, pas animé au cinéma.
Ah ouais,
à Hollywood, oui, c'était, ça avait été annoncé il y a quelques semaines.
D'accord, écoute, bah, alors là.
Et on avait même parlé du casting avec Olivier.
Bah, au moins,
et
ça
Madiba,
sera super. Comme à l'image du jeu, ça sera original.
Parce qu'il va te filer un rôle, c'est ça.
Non, ça risque d'être difficile. Dans un conte d'African Fantasy, un petit Babtou comme moi, ça risque d'être un peu compliqué.
Tu sais, le blackface, ça se faisait à une époque.
Non, je pense pas, non. Bref, il y a quand même pas mal de choses hein, qui arrivent. Il y a eu quand même plus d'une quarantaine de films qu'on a pu dénombrer, avec un peu de la merde aussi. Ça vous donne de l'espoir pour l'avenir, alors, tout ce qu'on a pu dire.
J'ai fait la conclusion un peu plus tôt, mais oui, ouais. C'est ça un peu. Moi, je pense que à l'avenir, ça va quand même beaucoup mieux se passer que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, quoi. Je pense. Faut quand même chercher dans les jeux. Les trucs qui sont qu'on verrait un véritable intérêt à être adapté, quoi. Et il n'y a pas tant de jeux que ça, avec soit un bon scénar, soit un univers correct.
Est-ce qu'il faut prendre le matériau tel qu'il est, ou est-ce qu'il faut le réadapter?
Ça dépend des jeux.
Voilà.
Mais un truc qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que là, on arrive dans une ère où les gens qui ont grandi avec le jeu vidéo sont en âge de réaliser, de produire des films. À une époque, c'était des gens qui avaient jamais joué ou qui connaissaient à peine le jeu vidéo, qui devaient s'occuper de transformer ces choses-là. Maintenant, les chances que le sujet soit bien traité, parce qu'il va être traité par des gens qui les comprennent et qui les ont utilisés, qui ont joué avec, etc. Je pense que ça fera pas de mal, ça fera pas de mal aux adaptations.
Et j'espère que ça sera fait un peu comme Ubisoft l'a fait avec Assassin's Creed, parce que tu sais que le film n'adapte pas forcément un des jeux ni un des personnages, il en crée un, donc en fait il enrichit l'univers en utilisant tout le lore qui existe déjà, quoi.
Mais comme Resident Evil, en fait, les mecs.
Non, mais Resident Evil, non.
Mais c'est
non,
pas
non.
le même lore.
Ah, enfin, mais alors là, qu'est-ce que ça veut dire, mais...
C'est une dimension parallèle.
Non, je plaisantais, c'est juste pour vous titiller. Vous
non, mais
ça,
c'est l'esprit qui est pas le bon et tout ça dans Resident Evil. C'est pas.
Mais il y a Mila Jovovich.
Et une autre question, Romain. Parce qu'on a parlé des films déjà sortis, de ceux qui risquent de sortir, de ceux qui ont été annulés. Mais si vous choisissiez une licence ou une ou deux de jeux vidéo que vous aimeriez voir en film.
Tu sais quoi, j'aurais répondu à Assassin's Creed avant que ce soit fait. Parce que je trouve que c'est là où il y a les trucs les plus intéressants à adapter en film. Si je devais en choisir une autre.
Bah, moi, le truc, c'est que The Walking Dead, ça existe déjà en série, forcément. Mais Life is Strange, par exemple, je le verrais très très bien adapté en
série ou en
série. Série, ouais.
Ouais, ça serait pas mal une petite série.
Life
live,
is Strange pourrait être très intéressant parce qu'il y a ce côté. De toute façon, il y a le côté Veronica Mars, le côté série américaine.
Là, je valide.
Dawson, un petit peu, tu vois, que tu peux développer. Tu peux te faire parfaitement des épisodes un peu cucu où ça ne concerne que des histoires d'ados. Et puis d'un coup, ça part justement dans les thèmes un peu plus adultes de Life is Strange. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec celui-ci. Après, j'en cite un comme ça, mais si on pouvait adapter, je sais pas.
Moi, c'est les Chevaliers de Baphomet. J'aimerais bien.
Ah, ça serait pas mal aussi. Ouais. Ça pourrait faire un bon film d'aventure, une bonne série d'aventure.
Ouais, et.
Parce que Stobart, là, il est sympa.
Et j'avais parlé à Charles Cécile, justement, quand je l'avais rencontré, je lui ai fait. Mais Da Vinci Code, ça vous inspire quoi? Parce que. J'ai vu Da Vinci, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu Da Vinci Code au ciné. Je me suis dit, putain, c'est les Chevaliers de Baphomet, le film. Et je lui ai demandé. Et il avait fait un grand soupir quand je lui avais dit
oui,
ça.
Oui, Dan Brown était mon colocataire.
Non, non, il m'avait dit. Non, il m'avait dit. Parce que les Chevaliers Baphomet sont plus vieux que le livre Da Vinci Code. Il m'avait dit si j'avais assez d'argent pour engager un bon avocat. Parce que c'est il faut pas se leurrer. Da Vinci Code, c'est un putain.
Il m'a dit ça.
J'ai la vidéo, donc c'est un putain de plagiat des Chevaliers de Baphomet. Donc c'est pour ça que je pense que Baphomet en film, ça s'adapterait bien. En plus, il pourrait faire plusieurs épisodes parce que
une série, tout bêtement.
Oui, ou même une série.
Après, j'avoue que s'il y avait un truc que je voudrais voir en série, mais ça fait genre plus de 20 ans que j'y pense, c'est je me dis que Final Fantasy VI mériterait. Voilà, parce que c'était un de mes jeux préférés. Ou Red Dead aussi pourrait être adapté en film, ça pourrait être chouette. Fin...
Ouais, mais là encore, est-ce que ça ferait pas un western classique? Parce qu'en jeu vidéo, on n'a pas l'habitude de ce
des westerns, des bons westerns, il y en a eu.
Il y en a plus beaucoup.
GTA V. avec les trois personnages.
Oui,
là,
aussi, ouais.
Dont, enfin, dont machin, là, qui a trop de la gueule, là, quand même.
Trevor,
le taré, là.
Non, mais il y en a trop, en fait. Hein.
Ouais.
Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, on peut pas tous les dire. Malheureusement.
Bah, tu fais GTA V en film avec Kevin Hart dans le rôle de Franklin.
Tu veux mettre Kevin Hart
partout. Bruce Willis dans le rôle de, parce qu'il est partout en ce moment. Ouais. Bruce Willis dans le rôle de Michael et le mec qui a fait Trevor dans le jeu dans le rôle de Trevor. Ah,
ils sont
acteurs.
Ils sont acteurs aussi les deux autres qui font. Ils pourraient.
Oui, mais ça le rappeur qui joue Franklin. Je trouve qu'il est un peu trop vieux dans la réalité pour jouer le personnage. L'autre, c'est un no name. Donc Bruce Willis, ça colle plutôt bien niveau physique, niveau attitude. Et le mec qui joue Trevor, il n'y a que lui pour jouer ce rôle-là. C'est les deux mêmes, il n'y a pas de différence physiquement. Donc,
Puis d'ailleurs, le court-métrage que vous pouvez retrouver sur Gameblog, on avait fait une news à ce sujet.
Sur la réalité virtuelle.
Sur la réalité virtuelle avec Trevor, justement, qui s'immisce carrément dans la vie du joueur. Est extraordinaire.
Ah, Alan Wake, ça ferait un bon film.
On va finir ce podcast maintenant. Non, ça va, je plaisante, détends-toi. Oui, c'est vrai qu'Alan Wake pourrait faire aussi
Pourquoi
un bon
pas,
film,
ouais.
Mais il faudrait qu'il ait une suite et qu'on comprenne un peu ce qui se passe dedans.
Bah, on n'est pas obligé de comprendre.
Ah,
t'as compris Mulholland Drive, toi?
Non.
Bon, bah voilà, t'as bien aimé.
Non, j'ai pas aimé.
C'est vrai,
je suis pas un grand fan de Lee. C'est mon pote, hein, mais je suis pas un grand fan.
Okay. Bah, mais après, tu vois, t'as les films d'auteur. Mais une adaptation d'Alan Wake, ça serait pas un film d'auteur. Donc il serait obligé de tenir le spectateur par la main et il simplifierait énormément ce que tu vois dans le que tu vois dans le jeu. Et je pense que ça dénaturerait.
Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu la folie là. Tu sais pas s'il pète un câble, si ce qu'il voit.
On a déjà touché un jeu Remedy avec Max Payne. Je pense qu'il vaut mieux les laisser pour l'instant de leur côté. Ils se démerdent très bien en plus avec Quantum Break. Ils ont fait ce qu'il fallait pour que justement tous les médias soient.
Ça me fait penser qu'il y avait une série Viva Pinata aussi, une série animé.
C'est vrai.
Ouais.
C'est
un dessin animé.
Tous ces souvenirs. Écoutez, maintenant on va conclure ce podcast tranquillement. On va partir. On va vous laisser discuter entre vous dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à nous dire vous quels sont vos meilleurs souvenirs d'adaptation en série ou en film de jeux vidéo.
Les plus mauvais aussi.
Les plus mauvais. Bah oui, tiens, filez-nous un petit peu vos. C'est les Razzies. Non, c'est quoi les.
Les Razzies.
Les Razzies Awards. Les
Razzies.
Razzies Awards. Filez vos Razzies Awards.
Votre flop 10 des films les plus pourris.
Voilà, et ce en quoi vous croyez dans ce qui va arriver dans les prochaines années, notamment. Tomb Raider ou ce que vous aimeriez voir aussi puisqu'on en a discuté à l'instant. N'hésitez pas, les commentaires sont juste en dessous là et vous pourrez évidemment, on viendra participer, on viendra en rajouter une petite couche si jamais vous dites des bêtises et si nous aussi on en a dit. N'hésitez pas à nous le signaler. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci Romain, merci Julo, merci Poufi à la sono, merci Jules. Ah bah non, Julien est pas là. C'est vrai qu'on était tous les trois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a plus que sa jambe.
On
tiens,
on a
mangé Julien. Voilà,
je l'ai
on
mangé
vous reverrez
délicieux.
Probablement la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout,
jouez bien.
Et matez des films, hein, c'est vachement bien.
Ciao.